18h, 20h.
Philippe Vandel sur Europe 1.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver avec cette belle victoire de la France en Coupe Davis. La soirée et le week-end commencent bien. Au menu de ce 18-20, deux heures d'information avec du sport, les médias, avec Sophie Davant et des dossiers. Alexandre Benalla devrait finalement se rendre mercredi devant la commission des lois du Sénat pour s'expliquer après avoir affirmé qu'il refusait d'honorer cette convocation. Mais le président de la dite commission, le sénateur Philippe Bas, a fait valoir que ce refus était illégal. Le gouvernement a une lecture inverse de la loi. Qui a raison, qui a tort ? Réponse avec un infaillible professeur de droit constitutionnel. Les pompiers qui réclament de l'aide, celle de la police. Sur certaines interventions, notamment dans les quartiers difficiles, mais pas seulement, ils deviennent des cibles. Rien que depuis le mois de janvier, en région parisienne, 160 pompiers ont été agressés. Il y a eu un mort il y a deux semaines. Le vice-président du syndicat national des pompiers professionnels sera avec nous dans ce studio. Un document enfin. Le grand reporter Kamal Redouani a saisi en Libye l'ordinateur d'un émir de Daesh, seigneur de la ville de Sirte. Ce qu'il a découvert est terrifiant. Des plans d'attentats, la formation des djihadistes, le planning des condamnations à mort, du prélèvement de l'impôt islamique et même des lettres d'amour destinées à lui. Il sera avec nous à 19h15. Et puis ne manquez pas notre dernière demi-heure, on va parler culture avec le groupe Justice, le duo français d'électro en tournée mondiale. Et quand je dis mondiale, c'est pas la Suisse et la Belgique. Ils seront cette semaine à Las Vegas, puis à Austin, Texas. Au menu également, Stephen King dont les romans font tellement peur qu'ils vous empêchent de dormir. Mais nous, on est bien réveillés et on est ensemble jusqu'à 20h. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Philippe. Et durant cette belle tranche d'infos, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, notamment notre page Facebook Europe 1 ou encore sur Twitter avec le hashtag Europe1.fr. Bon week-end à l'écoute d'Europe 1, il est 18h. Et on commence le journal avec vous Fabienne Lemoyle et vous Philippe Vandel.
Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Philippe.
Au sommaire de votre journal de 18h.
Vous le disiez, les Français en finale de la Coupe Davis avec un capitaine aux anges, Yannick Noah, qui danse à la manière de Umtiti sur le terrain de Villeneuve-d'Ascq pour fêter leur qualification. L'Élysée qui fait le plein à l'occasion des fêtes du patrimoine, nous serons sur place. La nouvelle bataille au Parlement cette nuit autour du glyphosate, division dans la majorité pour écrire dans la loi l'interdiction d'ici 3 ans de l'herbicide. Et puis une bonne nouvelle, les futures cuvées en champagne s'annoncent excellentes.
Europe 1.
Ah bah on y est au champagne, on commence par les Français qui ont décroché leur place en finale de la Coupe Davis.
Et oui, il coulera peut-être à flot pour la 19e finale et surtout deuxième consécutive alors qu'ils sont actuellement tenants du titre et cela grâce à une victoire en double face aux Espagnols cet après-midi avec, et vous l'avez vu sous vos yeux, un capitaine Yannick Noah tout simplement heureux, Corinne Boulou.
Oui, Fabienne, parce que c'est le scénario idéal pour le capitaine Noah qui va pouvoir prolonger sa mission finale avec ses joueurs puisque cette finale de la dernière édition de Coupe Davis sera aussi sa dernière. Lui, l'homme de la Coupe Davis, ce sera sa 5e finale après en avoir gagné 3 en tant que capitaine, lui qui avait signé son retour en 2016. Alors vous imaginez son émotion tout au long des matchs, d'ailleurs hier comme aujourd'hui sur le banc, il fallait le voir prendre tout à l'heure dans ses bras ses joueurs, les serrer longuement, une étreinte qui en disait long. Et ce tour d'honneur avec ce pas de danse, imaginé, vous l'avez dit, par Samuel Umtiti en Coupe de Monde et repris avec humour par Noah et son numéro 1 Lucas Pouille pour saluer les supporters qui ont joué leur rôle, même vêtus de noir pour certains, afin de protester contre le changement de format de l'épreuve. Et que dire, Fabienne, des larmes de Julien Beneteau aux côtés de Nicolas Mahut, les héros du jour en double, recalés de la finale victorieuse l'an passé. Et ce sont eux, tout à l'heure, qui ont apporté le point décisif pour se hisser dans cette deuxième finale consécutive. Et ce devrait toujours être dans ce stade Pierre Mauroy à la fin du mois de novembre.
Corinne Boulou en direct de Villeneuve-d'Ascq pour Europe 1.
Maintenant, direction l'Élysée.
Avec un palais littéralement pris d'assaut ce matin par les visiteurs à l'occasion des journées du patrimoine, des visiteurs qui n'ont pas hésité à faire plusieurs heures la queue et qui ont été accueillis, Rémi Botsaron, cet après-midi par le couple présidentiel.
Oui, Emmanuel Macron et son épouse qui sont sortis dans les jardins. Le président a serré des mains, posé pour des selfies et répondu par exemple à cette dame qui se plaignait de ne pas recevoir de réponse à ses mails envoyés à l'Élysée depuis déjà l'époque de François Hollande.
Depuis Hollande, personne ne m'a répondu.
Alors moi ici, maintenant on répond. Donc là, il y a un mail qui vous est donné. Si vous pouvez écrire à ce mail en rappelant le nom,
j'espère bien,
le nom des courriers.
Moi, je voulais vous rencontrer comme ça en personne.
Et ben voilà.
Et même ceux qui n'ont pas pu rencontrer le président aujourd'hui ont tout de même pu deviner sa présence à l'Élysée à travers la décoration, selon Florence.
c'est luxueux. Il y a des magnifiques œuvres d'art au mur, la dorure. Après, il y a des œuvres très modernes aussi. Hein. Manifestement, le couple Macron a bien modernisé les lieux, tout en gardant quand même le côté historique. Je trouvais ça assez chouette. Le mariage se fait bien, finalement.
Et la beauté des lieux, c'est ce qui ressort de la plupart des témoignages, mais pas tous. Françoise en retient une toute autre impression.
C'est joli, mais c'est pas forcément, c'est pas Versailles. Mais c'est vraiment l'état, le fait d'être là, d'être sur le perron, de penser à tous les gens qui passent ici, tous les gens connus, les chefs d'État. C'est presque intimidant.
Et intimidant aussi pour beaucoup le prix des produits dérivés hein, proposés dans la cour à la sortie. 25 euros par exemple pour ceux qui n'ont pas pu voir le président en vrai, mais seulement en photo sur un mug.
Rémi Botsaro en direct de l'Élysée, et vous parliez à l'instant des produits dérivés. L'Élysée a annoncé justement cet après-midi qu'elle allait arrêter de travailler avec la société Mug in France. Cette entreprise basée en Dordogne avait marqué porcelaine de Limoges sur les produits dérivés de l'Élysée alors que les articles avaient été fabriqués à Toulouse.
Et puis c'est ce mercredi qu'Alexandre Benalla va être auditionné par la commission d'enquête du Sénat.
Il l'a dit, il y va selon lui contraint et forcé. Ces derniers jours, ils ont été plusieurs au gouvernement, comme Benjamin Magrivo, le porte-parole, ou encore hier Christophe Castaner, le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, a monté au créneau pour dire qu'avec cette audition, les sénateurs outrepassaient leur pouvoir. Et cet après-midi, c'est au tour de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, de mettre une nouvelle fois en garde les sénateurs. Et dans une tribune du journal Le Monde, elle écrit, Adrien Beck, que le Parlement ne peut pas empiéter sur le domaine judiciaire.
Oui, c'est un gros avertissement aux sénateurs. Les mots sont forts. Deux angles d'attaque. D'abord, le président de la République ne peut faire l'objet d'une commission d'enquête, avertit Nicole Belloubet, puisque le Parlement ne peut contrôler que l'action du gouvernement, selon la Constitution. Mise au point qui fait écho aux propos plus explicites de Christophe Castaner hier. Si certains pensent qu'ils peuvent s'arroger un pouvoir de destitution du président de la République, ils sont eux-mêmes des menaces pour la République, a déclaré le secrétaire d'État en relation avec le Parlement. L'autre angle d'attaque de la ministre de la Justice, c'est le risque, selon elle, que le Parlement empiète sur le domaine judiciaire. Ce serait choquant, écrit Nicole Belloubet, allusion aux événements du 1er mai qui font l'objet de poursuites judiciaires. Et gros coup de pression sur les sénateurs à 4 jours de l'audition du principal protagoniste de cette affaire, Alexandre Benalla, lui-même mis en examen pour violence en réunion.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Notez que c'est Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains en Sénat, justement, qui sera l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews des Échos demain à 10h.
Et à propos de la pression mise par la garde des Sceaux sur les sénateurs, nous recevrons tout à l'heure le professeur de droit constitutionnel Olivier Roucan pour parler de cette affaire Benalla. À suivre, nouvelle bataille au Parlement cette nuit autour du glyphosate.
18h09, la suite du journal. Fabienne Lemoyle, Philippe Vandel.
Décidément, Fabienne, le glyphosate divise la majorité.
En témoignent la nuit dernière les deux positions qui se sont affrontées au Parlement. L'enjeu, François Geffrier, c'était de faire inscrire dans la loi alimentation l'interdiction de cet herbicide dans les 3 ans.
Oui, et le gouvernement n'a pas changé d'un brin d'herbe sa position. Le glyphosate ne sera plus utilisé en France d'ici 3 ans, mais ce n'est pas la peine de l'interdire par la loi. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, est persuadé qu'il faut faire confiance à chaque filière agricole pour trouver des alternatives.
Nous ne voulons pas faire en sorte que seuls les agriculteurs payent cette transition voulue par nos concitoyens. Nous devons mettre tous les moyens possibles de la recherche, de l'innovation pour trouver les alternatives crédibles. Et c'est pourquoi nous avons choisi cette confiance dans les filières. Alors on peut toujours se faire plaisir et inscrire un objectif dans la loi. Mais vous savez, on se souvient d'un certain nombre d'objectifs qui avaient été inscrits dans les lois et aucune suite ne leur a été donnée. Nous allons tenir cet objectif de 3 ans, donc nous n'avons pas besoin de l'inscrire dans la loi.
Alors en face, il y a François-Michel Lambert, il est député de la majorité, La République En Marche, mais il voulait faire interdire par la loi le glyphosate et il n'est pas totalement convaincu par le ministre.
C'est très juste ce qu'il peut dire. Mais ce n'est pas compris, ce n'est pas audible. Je pense que c'est une faute politique parce que l'inquiétude va persister sur la capacité à sortir ce glyphosate de notre modèle de production agricole.
Seule concession du ministère de l'Agriculture, s'il n'y a aucune avancée dans 1 an et demi et que les mauvaises herbes continuent d'être traitées avec de la mauvaise volonté et donc du glyphosate, une proposition de loi interdisant ce produit sera soutenue par le gouvernement.
François Geffrier du service économie d'Europe 1, nouvelle mobilisation des opposants au projet de la rocade pour contourner Strasbourg. Entre 1000 à 2000 personnes ont défilé cet après-midi à Kobsheim. Mobilisation sans heure, alors que lundi dernier, l'évacuation de la zone où doivent se faire les travaux avait donné lieu à une intervention musclée des forces de l'ordre. À l'étranger, au moins 8 morts aux Philippines après le passage d'un super typhon. La défense civile estime d'ailleurs que le nombre de victimes devrait augmenter au fil des heures. Plusieurs milliers de personnes ont dû quitter leur domicile pour fuir la violence des vents et des pluies torrentielles. Aux États-Unis, c'est l'ouragan Florence qui sème la désolation en Caroline du Nord. Au moins 4 morts et des quantités monumentales de pluie qui tombent sur la région. C'est ce que vient de dire le gouverneur de l'État.
Et puis dernière ligne droite pour votre taux de prélèvement à la source. Et
oui, vous avez jusqu'à ce soir minuit pour faire part de votre choix à l'administration fiscale. Petit passage en revue des différentes possibilités avec Anne-Laure Jumet.
Le taux qui vous a été communiqué va s'appliquer à votre salaire chaque mois à compter de janvier. Et si vous êtes marié ou pacsé, eh bien il s'appliquera à vos deux salaires. Mais vous avez peut-être envie d'adapter ce taux aux revenus de chacun quand il y a de fortes différences de salaire dans le couple. À ce moment-là, optez pour des taux individualisés. Au final, la facture restera la même. Enfin, dernier choix, le taux non personnalisé défini en fonction de votre seul salaire. Une solution pour ceux qui veulent préserver une forme de confidentialité auprès de leur employeur. Attention, ce taux peut être beaucoup plus élevé que celui qui vous a été adressé, notamment si vous êtes marié avec des enfants. Et dans ce cas-là, vous devrez avancer de l'argent au fisc avant de récupérer les sommes en septembre 2020. À partir de lundi prochain, ces taux vont donc être transmis aux entreprises qui vont pouvoir, si elles le souhaitent, entamer la phase de test à blanc sur les bulletins de paye d'octobre, novembre et décembre. Si vous voulez revenir sur votre choix, ce sera encore possible d'ici la fin de l'année, mais ne tardez pas trop si vous voulez que ce soit bien pris en compte au 1er janvier.
Anne-Laure Jumet, chef adjointe du service économie d'Europe 1, Anne-Laure qui évoquait à l'instant la possibilité de modifier par la suite votre choix. Il faudra le faire d'ici début novembre, c'est ce que conseille l'administration fiscale.
Tout à fait autre chose. La récolte 2018 s'annonce particulièrement exceptionnelle en Champagne.
Et oui, Philippe, vendange précoce avec des quantités très importantes. Voilà qui veut dire effectivement excellente cuvée. Et on comprend pourquoi Charles Duval-Leroy, l'un des patrons d'une grande maison de Champagne, a le sourire.
De mémoire d'ancien, on n'a jamais vu une aussi belle récolte. Toute l'année, on n'a pas eu de stress hydrique, il n'y a pas eu du tout de très peu de gelée, très peu de grêle. Toutes les grappes étaient belles, elles étaient grosses, il y a du sucre, il y a de l'acidité, il y a tout ce qu'il faut pour faire un très grand millésime. On le retrouvera dans des champagnes dits bruts dans quelques années et dans les millésimes, dans, suivant les maisons, dans 10 ans ou dans 20 ans. Quand vous regardez sur le marché, en Bourgogne, sur le Bordelais ou sur d'autres vignobles, on peut avoir des grosses fluctuations de prix d'une année sur l'autre pour cause de rareté ou non du produit. La Champagne, c'est tous les ans à peu près le même quota. Et une très belle année comme celle-ci nous permet de prendre des raisins, on les met de côté. Si l'année prochaine c'est très mauvais ou qu'il n'y a pas de raisins, ça nous permet de pouvoir faire toujours le même nombre de bouteilles et pouvoir libérer ce très beau vin qu'on a en cave.
Voilà Charles Duval-Leroy qui était l'invité d'Emmanuel Dutheil hier soir dans le journal de la nuit sur Europe 1.
C'était le journal de Fabienne Lemoal. Merci Fabienne.
Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcadB. Plus d'infos sur arcadb.com. ArcadB vous présente la météo.
Et la météo, on l'entend à ce signal, c'est avec vous Valérie Darmon, on profite du beau temps encore ce dimanche.
Absolument Philippe, et même que la chaleur s'imposera un peu plus demain, sauf toujours le long de la Manche où le ressenti sera plus frais à cause des nuages. Partout ailleurs, le soleil va dominer, avec en plus d'aujourd'hui une petite tendance orageuse en Roussillon. Alors je vous donne quelques maximales quasi estivales en notre après-midi dominical. 23 annoncés à Lille et à Quimper. 24 à Charleville et La Rochelle, 25 en région parisienne ainsi qu'à Chartres, 26 à Perpignan et Strasbourg, 27 à Biarritz et à La Roche-sur-Yon, 28 à Manosque et au Puy-en-Velay, 30 degrés à Angoulême, à Toulouse et à Grenoble, 31 dans le Bordelais et dans le Lyonnais, nous sommes mi-septembre, et 32 enfin à Mont-de-Marsan.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Le journal des sports.
Et dans ce journal des sports, retour évidemment sur la victoire française en demi-finale de la Coupe Davis.
Oui, grâce au succès du double Beneteau-Mahut cet après-midi, Yannick Noah et sa bande mènent 3-0 face aux Espagnols et sont donc assurés de jouer la finale et de défendre leur titre. Ce sera soit face à la Croatie, soit face aux États-Unis. Mais chaque chose en son temps. D'abord, il faut savourer, écouter Yannick Noah.
Je suis tellement content d'être en finale. J'avais peur des Espagnols. Ok, on avait un vrai respect des Espagnols, de l'équipe d'Espagne. C'était pas la langue de bois quand on vous a dit avant-hier que c'était un match hyper équilibré. On gagne 3-0, on joue vraiment bien, on perd 2-7 sur 3 rencontres. Et il s'est passé plein de belles choses. Mais voilà, là, je parle personnellement, moi, je suis tellement content, je suis tellement heureux. On connaît l'histoire, on sait ce qui se passe, on connaît l'histoire de la Coupe Davis. On sait que là, on est en train de vivre des moments précieux. Ouais, sur la dernière photo, on sera dessus déjà. Alors si c'est avec la coupe, ça le fera carrément, quoi.
Voilà, Yannick Noah au micro Europe 1 de Corinne Boulou. Et l'histoire à laquelle il fait référence, c'est que la Coupe Davis sous sa forme actuelle va changer dès l'an prochain pour des histoires de gros sous.
Nous en parlerons demain avec Henri Lecomte. Juste une question, Axel. Est-ce que demain, les matchs auront lieu pour la beauté, pour la gloire, alors que le résultat est déjà plié?
Oui, parce que vous avez payé quand vous êtes spectateur pour le dimanche. Donc les matchs, sauf improbable changement, ont lieu le dimanche pour les spectateurs qui sont là et qui ont payé leur billet.
Le football à présent avec la 5e journée de Ligue 1, un match en cours.
Ouais, depuis 17h, Lyon en petite forme affronte Caen, 1-0 à la mi-temps. Le match a lieu en Normandie où l'on retrouve Jean-Louis Garros pour la seconde période et le score a évolué ainsi que les effectifs d'ailleurs.
Et oui, effectivement, on joue maintenant depuis 58 minutes et les deux équipes sont à égalité, 1 partout. Ouverture du score, 44e minute par Fekir sur un coup franc magistral et ensuite c'est un pénalty que Beauvu a inscrit, 1 partout, mais tout à l'heure, à l'instant même, il y a eu une faute notamment de Djeku qui a été sorti carton rouge, faute sur Fekir et l'arbitre n'a pas hésité une seule seconde et les Canets évoluent maintenant à 10 contre 11, un partout entre les deux formations.
Voilà, cette 5e journée de Ligue 1 va se poursuivre ce soir bien sûr, à suivre sur Europe 1 Sport avec notre camarade Lionel Rousseau. Un dernier mot de Formule 1, je sais que vous aimez ça, pour souligner que Lewis Hamilton a signé la 79e pole position de sa carrière au Grand Prix de Singapour.
Voilà, et la course évidemment c'est demain. Merci beaucoup Axel Metz, c'était le journal des sports. Les agressions de sapeurs-pompiers ont doublé en 3 ans en région parisienne, rien que dans cet endroit, déjà plus de 160 depuis le début de l'année. Et il y a 2 semaines, un sapeur-pompier de 27 ans a été agressé et tué par un schizophrène à qui il portait secours. Les pompiers sont en colère, ont-ils peur? Réponse avec le vice-président du syndicat national des pompiers professionnels dans un instant sur Europe 1.
19h19, votre grand journal du soir se poursuit avec Philippe Vandel jusqu'à 20h et on accueille votre premier invité, Philippe.
Il y a 2 semaines, le 4 septembre, un sapeur-pompier professionnel a été poignardé par un schizophrène à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne pendant une intervention. Et la semaine dernière, le patron des pompiers de Paris, le général Gallet, a envoyé un mail aux 8500 sapeurs-pompiers parisiens qui pointaient du doigt ce mail les dysfonctionnements entre les différents services de secours, notamment le SAMU. Il jugeait la situation suffisamment grave pour adresser directement ce message sans passer par son autorité de tutelle, la préfecture de police. Il écrit, je cite, « Profonde tristesse, colère, indignation sont des sentiments qui nous animent tous. Une société qui ne protège pas ses anges gardiens est vraiment malade. » Bonjour Frédéric Monchy.
Bonjour.
Vous êtes vice-président du syndicat national des pompiers professionnels. Est-ce que vous partagez la colère du général Gallet?
Alors complètement. On partage complètement la colère, l'indignation et l'incompréhension du général Gallet. Le général Gallet s'est adressé à ses hommes pour leur venir en soutien. D'abord, c'est important. C'est important qu'un chef comme le général Gallet s'adresse en soutien à ses hommes. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, on partage complètement l'indignation et la colère. Et nous aussi, on a besoin de comprendre parce que aujourd'hui, les agressions des sapeurs-pompiers militaires, professionnels et volontaires sur l'ensemble du territoire métropolitain ultramarin, c'est pas une situation qui date d'aujourd'hui. C'est déjà quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. Malheureusement, c'est aussi quelque chose qui prend de l'ampleur, qui se déplace des zones métropolitaines vers les secteurs ruraux. Le premier endroit où les personnels se font agresser assez violemment, c'est déjà au téléphone, lors de la prise d'appel au 18 ou au 112, lorsque les sapeurs-pompiers prennent des appels. Ensuite, cette violence, elle se caractérise directement au contact de la population sur intervention, et c'est de plus en plus souvent et de plus en plus violent.
Alors on va dire un mot de l'affaire avant de parler du problème que vous évoquez en général, parce que le nombre d'agressions, vous l'avez dit, de pompiers dans l'exercice de leur fonction a énormément progressé. Le récit de Villeneuve-Saint-Georges, une mère a appelé le SAMU au sujet de son fils qui était connu pour des antécédents psychiatriques et qui se trouvait dans une crise de démence qui venait de finir son traitement. Les pompiers sont arrivés, lui ont demandé de le suivre, jusque là aucun problème, mais juste avant de monter dans le véhicule des pompiers, il leur a dit qu'il avait oublié sa carte vitale chez lui. Il est retourné dans la maison et il est revenu avec un couteau de cuisine. Il a poignardé 2 hommes, un qui est mort sur le coup, un autre blessé dans un état grave dont les jours désormais ne sont pas en danger. Si j'ai bien compris, le problème vient pour vous du traitement du cas de ce jeune homme schizophrène par le SAMU.
Alors d'abord, C'est pas le seul phénomène, mais le premier problème à régler, c'est effectivement ce problème de coordination entre les différents acteurs qui reçoivent les appels d'urgence aujourd'hui. Le nombre important d'appels de numéros d'urgence provoque un problème de coordination dans le déclenchement des secours et le problème d'inadaptation de la réponse opérationnelle.
Je vais donner l'information pour les gens qui ne connaissent pas le détail. Les appels vers le numéro d'urgence des pompiers, qui est le 18, de la police, le 17 et le numéro européen, le 112, sont réunis dans un seul et même centre de réception à Paris dans le 17e. Or, les appels du SAMU, le 15, sont traités à part. Vous réclamez une plateforme unique. Qu'est-ce que ça changerait ?
Alors, ce que ça changerait, c'est une meilleure coordination entre les différents acteurs du secours. La police, les pompiers, la gendarmerie quand on est en secteur gendarmerie et évidemment le SAMU qui est l'acteur qui traite de la problématique médicale.
Mais en quoi une meilleure coordination expliquée aux gens aurait pu épargner cette vie ?
Eh ben, en fait, les informations qui auraient été reçues à l'appel auraient été partagées tout de suite dès la réception.
Vous voulez dire que vos collègues ne savaient pas que cette personne était très dangereuse ?
Alors en fait, chaque numéro d'appel concerne une problématique professionnelle particulière. Le SAMU, une problématique médicale. Les pompiers, une problématique du secours. Et la police, une problématique de maintien de l'ordre. Chaque numéro qui reçoit un appel aujourd'hui, l'opérateur qui est derrière ce numéro cherche à connaître les éléments qui le concernent dans sa problématique de cœur de métier. Et du coup, le SAMU n'a pas forcément les questions adaptées pour une problématique qui concerne du secours qui peut concerner l'intervention des sapeurs-pompiers. Et pourtant, c'est bien le SAMU qui les a déclenchés.
Ce que vous dites semble le bon sens même. Vous réclamez cette plateforme depuis longtemps. Pourquoi ça ne se fait pas ? Où sont les blocages ?
Alors, les blocages, ils sont d'abord, à mon avis, politiques. Il faut qu'il y ait absolument une volonté commune du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Santé pour qu'effectivement les plateformes puissent se créer et soient des plateformes uniques. Il faut que l'ensemble des acteurs du secours aujourd'hui soient centralisés sur un même et unique plateau.
Je pose ma question différemment, qui ne veut pas ?
Alors, c'est pas toujours facile parce que, l'organisation du secours en France ne relève pas que d'une seule entité territoriale. À Paris, on est d'accord, c'est la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui concerne Paris intramuros et les trois départements de la petite couronne parisienne. Le reste du territoire français, c'est les conseils départementaux et les préfets qui organisent les secours dans les services départementaux et métropolitains d'incendie et de secours.
Je vais donner des chiffres inquiétants sur certaines interventions, notamment en région parisienne, dans lesquelles les pompiers deviennent des cibles. Sur Paris, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, rien que depuis le mois de janvier, 160 pompiers ont été agressés. Là, l'année n'est pas terminée. En 2017, il y a eu 198 pompiers agressés. En 2014, 84. Je ne veux pas vous abreuver de chiffres, juste dire que le nombre d'agressions de pompiers a doublé en 3 ans. Comment l'expliquez-vous ?
Alors, on l'explique par des problèmes liés à la société, au malaise de la société en général.
Vous êtes pris comme le bouc émissaire, comme l'État. Je me souviens, pendant les émeutes de 2005, certains jeunes faisaient brûler des écoles ou des médiathèques ou des bibliothèques.
Exactement, c'est exactement le même phénomène. Et comme les sapeurs-pompiers sont réactifs, présents sur l'intégralité du territoire, avec un maillage qui nous permet d'être réactifs et présents rapidement, mais on est une cible très facile. Et la violence, elle est de plus en plus importante.
Vous avez peur quand vous êtes vous-même sur le terrain ?
Alors, on n'a pas spécialement peur parce que c'est trop facile de céder à la peur. Par contre, on essaye de se préparer. Quand la menace évolue, forcément, les sapeurs-pompiers s'adaptent. On l'a connu avec la problématique des attentats et la tuerie de masse, où les sapeurs-pompiers ont mis en place une doctrine spécifique pour pouvoir intervenir en travaillant en sécurité si jamais demain on était confronté à une situation comme au Bataclan avec des armes de guerre. Donc aujourd'hui, on met en place du matériel et des procédures et ça va continuer à évoluer.
Certains de vos collègues demandent un accompagnement des forces de l'ordre, mais sous quelle forme ? Et à partir de quel moment on estime qu'une opération est dangereuse ?
Alors, le premier moment où on l'estime dangereuse, c'est à l'appel. Charge à l'opérateur, justement, quand il est formé pour prendre un appel en service de secours, il est formé pour aller détecter un caractère de dangerosité de cette intervention. Donc, il va déclencher les secours. à partir du moment où c'est effectivement une intervention qui concerne les sapeurs-pompiers. Si cette intervention elle est dangereuse, on va demander la collaboration des services de police ou de gendarmerie. Et c'est là que le problème se pose, parce que aujourd'hui on voit bien que si nous on se bat pour maintenir des effectifs de sapeurs-pompiers professionnels, volontaires et militaires en nombre suffisant pour pouvoir répondre à la demande opérationnelle et à travailler en sécurité, on voit bien que les services de police ne sont pas en nombre suffisant pour pouvoir répondre au nombre d'interventions des sapeurs-pompiers sur le terrain.
Et vous-même, les pompiers, si j'ai bien compris, cela vous gêne, cette ambiance délétère pour recruter ?
Ah ben complètement, puisqu'aujourd'hui, le sapeur-pompier, il est d'abord recruté pour aller au feu. Le cœur de métier, c'est l'incendie. Quand le sapeur-pompier, il est confronté, dans plus de 80% de ses interventions, c'est du secours à personne, et que dans la majeure partie de ses interventions, il y a des problèmes de violence, forcément, il y a une défection dans nos rangs de la part de nos sapeurs-pompiers.
Puissiez-vous être écouté ? Merci beaucoup, Frédéric Monchy. Vous êtes vice-président du syndicat national des pompiers professionnels.
Europe 1.
Dans un instant, le rappel des titres de Sophie Tussaud, la météo et les suites de l'affaire Benalla, chargée de la sécurité du président Macron et qui a souhaité échapper aux questions de la commission d'enquête du Sénat. Mais en a-t-il le droit ? Un professeur de droit constitutionnel est avec nous. Réponse tout de suite sur Europe 1.
De 18h à 20h, vous avez rendez-vous avec Philippe Vandel, c'est votre grand journal du soir.
Le rappel des titres avec Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Pour la deuxième fois consécutive, la France est en finale de la Coupe Davis. Troisième point remporté face à l'Espagne grâce au double Julien Benneteau-Nicolas Mahut, 6-0, 6-4, 7-6. Les Bleus affronteront pour le titre fin novembre la Croatie ou les États-Unis. Des quantités d'eau monumentales, ce sont les mots du gouverneur de Caroline du Nord. La tempête tropicale Florence continue de déverser ses pluies diluviennes sur la côte est américaine. Au moins 5 personnes sont mortes. Des dizaines d'habitants ont été piégés chez eux par la montée des eaux. En Asie, les Philippines et Taïwan balayés par le violent typhon Mangkhut avec des rafales de vent par endroit à 330 km à l'heure. Au moins 8 personnes ont été tuées. Plus de 100 000 habitants ont dû quitter leur domicile. Et puis les journées du patrimoine, 17 000 lieux à visiter partout en France. Et gros succès du loto du patrimoine, 14 millions d'euros ont déjà été engrangés.
Merci beaucoup Sophie, on vous retrouve tout à l'heure à 19h.
Europe 1. Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcadB. Plus d'infos sur arcadb.com. ArcadB vous présente la météo.
Et la météo, c'est avec vous Valérie Darmon. Encore une belle journée en général.
En général, effectivement, parce que le ciel est toujours fortement grisonnant le matin sur la pointe bretonne et le Cotentin. Sur le reste de la Bretagne, la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, le voile est plus fin que ce matin, mais il pourrait s'épaissir dans l'après-midi sans donner de toute façon de pluie. Sur le reste du pays, on retrouve un très beau temps ensoleillé avec un fin voile nuageux des Pays de la Loire aux frontières belges. Et puis dans les Pyrénées et les Alpes, à nouveau, le ciel est plus nuageux et peut même virer à l'orage en Roussillon ce soir. Les températures sont en hausse, minimale 7 à 12 degrés en général, 15 à 20 en Méditerranée. Les maximales 22 à 26, voire 27 au nord et 27 à 30 au sud.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Jusqu'à 20h, nous sommes en compagnie de Philippe Vandel sur Europe 1 pour votre grand journal du soir. Et on va revenir maintenant sur un feuilleton judiciaire politico-médiatique, l'affaire Benalla.
Il y a une affaire dans l'affaire Benalla. Alexandre Benalla a été mis en examen, je vous le rappelle, le 22 juillet, notamment pour violence en réunion, après qu'il a été identifié dans une vidéo qui le montrait en train de frapper un manifestant en marge des défilés du 1er mai. Par ailleurs, son rôle au sein de l'Élysée, dont il était officiellement chargé de mission, a intéressé le Sénat qui a créé une commission d'enquête. Bonjour Olivier Roucan.
Bonjour.
Vous êtes enseignant, spécialiste de droit constitutionnel. Merci d'être avec nous pour y voir plus clair. Je voudrais soumettre à votre expertise deux points de vue. Après avoir affirmé qu'il souhaitait s'expliquer devant la commission du Sénat, Alexandre Benalla a déclaré qu'il ne se rendrait pas à la dite convocation, d'où la colère froide du président de la commission, Philippe Bas.
J'espère que ce refus est provisoire, bien sûr, parce qu'il n'appartient à personne convoqué devant une commission d'enquête de décider si oui ou non il doit venir. Je rappelle que c'est une convocation. Celui qui ne vient pas, il s'expose à des peines de prison et d'amende. Celui qui ment, il s'expose à des peines encore plus graves. Et une commission d'enquête, c'est au nom du peuple français, la représentation nationale qui veut faire la vérité et qui veut ensuite faire des recommandations, des propositions pour le bon fonctionnement de l'État.
C'était Philippe Bas. Or, des membres du gouvernement se sont relayés pour dire, pour laisser faire comprendre qu'Alexandre Benalla n'avait pas à se rendre devant le Sénat car il était déjà convoqué par la justice, notamment Nicole Belloubet, garde des Sceaux, je la cite, « Il ne doit pas y avoir d'interférence entre une commission d'enquête parlementaire et une information judiciaire. » Fin de citation. Qui a raison, qui a tort?
Pour vous répondre honnêtement, je pense en l'occurrence que Philippe Bas a raison. C'est-à-dire que...
Pardonne-moi, j'espère que vous me répondez honnêtement. C'est pour ceci que vous êtes là.
Exactement. Donc, précision inutile.
D'accord.
Philippe Bas a... Non, mais pour vous répondre clairement, ouais, voilà, d'accord. C'est ce que je voulais dire.
J'avais compris.
Si vous voulez, les textes sont très clairs. Monsieur Benalla doit se rendre devant la commission, il n'a pas le choix. C'est-à-dire sans quoi il va encourir des sanctions importantes. Et une fois devant la commission, il doit faire un témoignage juste, sans quoi également il aura affaire au juge. Hein. Deuxième point qui a été soulevé, c'est la question du est-ce que la commission d'enquête peut faire son travail alors qu'une instruction judiciaire a été ouverte. Bon, oui. Parce que ça s'est déjà produit par le passé, si vous voulez. Le tout, c'est que ce qui relève de l'investigation judiciaire, c'est quelque chose de très précis. C'est le comportement de Monsieur Benalla, alors que la commission d'enquête...
Le jour du 1er mai,
oui. Alors que la commission d'enquête va s'interroger sur les facteurs qui ont rendu possible ceci. Et donc, ce qui va, comme Monsieur Baladi, les intéresser, c'est, eh bien, y a-t-il eu des dysfonctionnements administratifs institutionnel avant ou après.
Cela dit, je me fais l'avocat du gouvernement. La commission d'enquête ne pourra pas ne pas poser des questions à M. Benalla sur son rôle le 1er mai. Pourquoi il avait un brassard de police? Pourquoi avait-il des ordres? En recevait-il lui-même? En donnait-il?
Mais si vous voulez, la finalité n'est pas la même. La finalité d'un magistrat, ça va être de chercher à comprendre si M. Benalla a commis des actes et des délits et de le sanctionner à proportion. La finalité du Sénat, c'est de savoir finalement quel était le rôle de M. Benalla et comment l'Élysée a été organisée et comment tout ceci a pu traverser cette période. C'est-à-dire, est-ce que les sanctions qui ont été prises à l'Élysée ont été conformes, etc., etc. Donc c'est le fonctionnement interne là de la machine administrative qui est visée. Ce n'est pas le comportement personnel de M. Benalla.
Une question m'est venue à l'esprit en écoutant la déclaration de Philippe Bas devant la commission du Sénat. Alexandre Benalla n'aura pas le droit de mentir, a dit le sénateur. Or, devant un juge d'instruction, devant un tribunal correctionnel, on a le droit de mentir. Est-ce qu'il n'y a pas un hiatus?
Mais si vous voulez changer les règles du jeu, il faut alors changer l'ordonnance qui a, lorsque elle a imaginé le système des commissions d'enquête, prévu ce type de sanctions. Donc là, c'est très clair, si on veut changer la règle du jeu des commissions d'enquête, il faut modifier la loi organique qui les encadre.
Vous êtes professeur de droit constitutionnel, je voudrais vous faire réagir à une déclaration de Christophe Castaner, qui est secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Il a critiqué la commission d'enquête du Sénat, dont les membres, selon lui, veulent outrepasser leur pouvoir, je le cite, « Une commission d'enquête qui penserait qu'elle pourrait jouer de ses fonctions du contrôle du gouvernement pour faire tomber un président de la République commettrait une faute constitutionnelle. » Vraiment ? Les textes disent ça ?
Disons que l'outrance du propos de M. Castaner est inversement proportionnelle à la qualité du propos. Parce que pour l'instant, si vous voulez, il n'est pas du tout question de viser le président de la République, ni de mettre en cause sa responsabilité. Personne ne parle de ça. Donc c'est une outrance, c'est la politisation de l'affaire. Depuis le début, d'ailleurs, autour de cette affaire, il y a vraiment beaucoup d'outrance. Donc là, il faut laisser le jeu institutionnel se faire. Ce qui est important, si je puis me permettre, rapidement, c'est que le Parlement puisse exercer le contrôle de l'exécutif sous la 5e République, le présidentialisme efface trop le Parlement. Là, le Sénat tient bon et c'est plutôt un signe de vitalité démocratique.
Merci beaucoup Olivier Roucan d'être venu avec nous en direct un samedi. Je rappelle que vous êtes enseignant, ce qui n'a rien à voir avec votre présence ici le samedi, spécialiste droit constitutionnel et vous êtes notamment l'auteur du livre « En finir avec le président » aux éditions François Bourin. C'était publié en 2017.
Europe 1.
Les après-midi de France 2 étaient sinistrés avec son émission de brocante Affaires conclues. Sophie Davant a triplé l'audience et se paye même le luxe de battre TF1 et France 3. Et ce soir, Affaires conclues sera en prime time sur France 2 et Sophie Davant avec moi en studio. C'est dans quelques instants.
18h40, votre grand journal se poursuit avec vous Philippe Vandel et votre invité Sophie Davant pour des après-midi de France 2.
Sophie Davant, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes présentatrice, productrice. On peut vous voir dans l'émission Affaires conclues. C'est sous-titré Tout le monde a quelque chose à vendre. C'est sur France 2 tous les jours du lundi au vendredi à 16h20, puis une autre émission à 17h10. Je vais commencer par un compliment, un mot de vos audiences. La case était sinistrée. Vous avez triplé les audiences. Vous avez démarré avec 6% de parts de marché. Maintenant, vous tapez, si j'ose dire, les 10, les 12, les 14. Votre record, à ma connaissance, était 16,1. Vous avez battu ce record ?
Non, je crois pas. Mais bon. Hier, on était à 15, donc c'est pas mal. On est dans de bonnes moyennes en ce moment. Et surtout, on était à 12,5 sur la ménagère. Alors ça, c'est carrément un score inouï, parce que c'est vrai que la case était très, très faible en nombre de téléspectateurs, mais elle était encore plus faible sur la ménagère.
Oui, parce que c'est la cible privilégiée. On dit maintenant la FRDA. La femme responsable des achats de moins de 50 ans, et c'est la cible privilégiée de TF1, d'M6, des chaînes commerciales, donc la performance n'en est que plus grande. Et une nouveauté ce soir à 21h sur France 2, Affaire conclue qui revient en prime time. Vous n'êtes pas en studio, mais vous êtes au château de Cheverny. Qu'est-ce qu'on va voir ?
Alors ça, c'est mon grand plaisir, parce que je pensais que exporter cette émission était une bonne idée. Mettre à l'honneur le patrimoine architectural français, le patrimoine régional en matière d'objets. Et là, on se trouve au château de Cheverny. C'est le château du Val-de-Loire qui a inspiré Hergé pour le château de Moulinsart. Donc c'est un très joli château. Nous avons été accueillis par monsieur le marquis, propriétaire du château, qui m'a fait l'honneur de la visite et que j'offrirai aux téléspectateurs. Et on a ouvert les portes.
Attendez, vous n'allez pas offrir le marquis aux téléspectateurs?
Non, la visite du château.
Ah bon? Parce que votre phrase était ambiguë.
Donc il y aura ces petits à côté en dehors du concept de l'émission. Le jardin du château a été ouvert au public et venu nombreux avec des objets qu'ils pouvaient faire expertiser par des commissaires-priseurs de la région. Et lorsqu'il y avait une pépite, les gens avaient la possibilité de venir vendre leur objet à nos acheteurs.
Alors, on en vient au principe de l'émission. Pour qui ne la connaissait pas, est-ce que vous pouvez la résumer ? Est-ce que vous pouvez le résumer, ce principe ?
Alors, tout le monde a quelque chose à vendre. C'est-à-dire que vous avez tous, chez vous, un objet qui sommeille dans votre grenier ou dans votre cave. L'idée, c'est de venir nous voir. Vous venez avec votre objet. Il est estimé par un commissaire-priseur. Et ensuite, la personne avec son objet se trouve devant 5 acheteurs professionnels et doit défendre son objet.
Mais ce sont des vrais acheteurs.
Des vrais acheteurs.
Ils achètent vraiment à la fin.
Avec chacun un profil, ils achètent avec leur vrai argent et on voit des vrais billets. Et on a des objets vraiment très intéressants. Au début, c'était un peu compliqué parce qu'on faisait la chasse à l'objet. Mais aujourd'hui, il y a énormément de gens qui se proposent. Et on a eu, par exemple, dans le tournage de la semaine dernière, un buste d'Auguste Rodin.
Waouh, il est parti à combien ?
Il est parti à plus de 7000 euros.
Juste un mot pour qui n'a pas vu l'émission, on voit les acheteurs payer les objets avec des vrais billets de banque, mais la voix off indique que au-delà de 1000 euros, on n'a pas le droit de payer en billets, donc il y a un chèque.
Exact.
Je comprends très bien la mise en scène, mais pourquoi vous ne faites pas la mise en scène du chèque avec un gros plan sur la personne qui écrit le chiffre ?
C'est vrai, c'est une bonne idée, je vais la soumettre à la production.
Oh bah non, merci de ce petit compliment. Il y a des vedettes ?
Il y a un écrivain qui s'appelle Eric Emmanuel Schmitt, que tout le monde connaît. Ouais. Il y a le duo Madame Monsieur. Et puis la chef étoilée Guylaine Arabian. On a accueilli aussi des humoristes. Alex Vizorek, par
exemple.
C'est pas
vrai.
Est venu te voir.
Je vous interromps parce que j'ai une petite surprise pour vous. Alex Vizorek.
Oui, salut Sophie, c'est Alex Vizorek. Je suis venu à l'émission, ce sera diffusé bientôt, j'ai adoré ça. Moi j'adore cette émission parce que c'est vrai que voir des gens comme ça venir vendre les derniers trucs qu'ils ont chez eux, qui jetteraient sans doute après s'ils les vendaient pas, moi je trouve ça émouvant. Alors en revanche j'ai l'impression qu'on peut tout vendre chez toi. Il me reste une grand-mère qui date de 1929, qui est assez sympa et que j'essayerais bien de vendre. Donc n'hésite pas, si ça peut t'intéresser, pour une nouvelle spéciale, je vends un membre de ma famille, et je reste disponible. Et surtout, je t'embrasse.
Je l'adore. Je suis totalement fan de lui. Et je crois pas un mot de ce qu'il me dit, parce qu'il adore sa grand-mère. Et il était venu me vendre un objet lui ayant appartenu d'ailleurs. Je crois qu'il est très complice, donc je suis sûre qu'il est pas du tout prêt à vendre sa grand-mère.
La limite du genre, évidemment, on vend pas sa grand-mère, ni le grand-père, ni les enfants. La limite du genre, quel est l'objet le plus saugrenu qui a été vendu jusqu'à présent ?
Il y a tout un tas d'objets, il y a des plus farfelus, il y a des téléphones en forme de...
Ne me dites pas, me dites pas.
J'ai compris,
me dites pas.
Non, c'est pas sexuel. Si, c'est genre
c'est vous qui l'avez dit.
Ou je sais pas quoi. Non, mais il y a des objets d'art populaire. Par exemple, j'ai trouvé, il y avait des sortes de chaussures en métal avec la semelle hérissée de pics vers le bas. Ouais. Et c'était des chaussures qu'on utilisait pour piétiner des châtaignes, pour séparer le noyau de la châtaigne de l'enveloppe.
Merci beaucoup, Sophie Davant, d'être venue nous voir ici dans ce 18-20 d'Europe.
Merci.
Vous êtes toujours sur Europe 1 et on va rester dans les médias avec vous, Philippe Vandel.
Bonsoir Renaud Revel.
Bonsoir Philippe.
Comme chaque samedi, c'est le moment de votre chronique média. Et là, une fois encore, une info exclusive que vous nous apportez. La télévision publique, ce n'est pas seulement des émissions et des salariés, c'est aussi un très gros comité d'entreprise.
Oui, considérable. Et pour la première fois dans l'histoire de cette maison, la Cour des comptes vient d'achever la rédaction d'un rapport totalement confidentiel sur ce CE qui gère les activités sociales, culturelles et touristiques des 14 000 salariés de France Télévisions, de Radio France et de l'Institut National de l'Audiovisuel.
Lina, et je vois à votre mine, Renaud, que le rapport est sévère.
Ah, bienvenue au pays de Courteline, Philippe. Les magistrats dénoncent d'abord des effectifs pléthoriques. Il y a 50 permanents, 110 intermittents en haute saison au sein de CE et une organisation totalement ubuesque. Rendez-vous compte, 7 services, un comité exécutif, une assemblée plénière, des responsables à tous les étages. Bref, une armée mexicaine.
Une armée mexicaine, c'est une armée où quasiment tout le monde est général, tout le monde commande, il n'y a que des chefs.
Oui, mais le pire, les cerises sur le gâteau, c'est qu'il n'y a pas de patron à sa tête.
Ah bon ?
Ce CE, quand même, qui a un budget de 20 millions d'euros, d'argent public, hein, est géré simplement par un simple trésorier. Du coup, la Cour a tapé du poing sur la table. Elle réclame aujourd'hui la nomination rapide d'un directeur général.
Et puis, il y a aussi des questions qui se posent du côté des dépenses des personnels.
Ah ben, rendez-vous compte, les dépenses de personnel représentent 41% du budget. C'est-à-dire la moitié du budget de cette commune d'entreprise.
Ah oui, parce que normalement, l'argent devrait surtout aller en majorité au voyage,
et aux salariés de France Télé, par exemple. C'est ainsi que le salaire moyen des permanents s'élève à 3 835 € mensuels. C'est-à-dire, pour la Cour des comptes, 30% supérieur à la moyenne des salaires dans la fonction publique. Et ça a mis les magistrats hors d'eux.
Il y a aussi des perles dans ce rapport.
Un cadre, notamment, a reçu, à titre d'indemnité de départ, près de 33 mois de son salaire net. Ce qui est, je n'ai jamais vu à France Télévisions. Hein.
C'est un beau cadeau.
Et un autre exemple qui est aussi éloquent, un ancien trésorier qui déclarait être domicilié dans le Var a reçu entre 2010 et 2014 plus de 50 000 euros de remboursement de frais divers, transport, hébergement, avant que les magistrats découvrent que ce type-là, en fin de compte, avait quand même un domicile à Paris. Et du coup, la Cour des comptes exige que les sommes qu'il a obtenues soient remboursées dans le plus bref délai au comité d'entreprise.
Alors, parmi d'autres découvertes de la Cour des comptes, vous me l'avez dit avant qu'on entre dans ce studio, c'est l'affaire dite du château de la Linde. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas où c'est.
Alors, c'est un site de vacances qui appartient aux communes entreprises, qui dispose par ailleurs de 6 domaines en France. Hein. Et celui-ci est un énorme domaine qui est dans le département de la Dordogne, de 115 hectares. Et les travaux d'aménagement qui ont été engagés en 2008, avec un budget à l'époque initial de 3,5 millions d'euros, les travaux ont duré 8 ans et le devis est tout simplement explosé. Il est de 6 millions d'euros aujourd'hui et ça pose un vrai problème.
En même temps, c'est un classique français que les devis ne soient pas respectés.
Et sur ce titre-là, il y a l'exemple assez croquignolesque d'une piscine dont le devis initial aussi était de montant d'à peu près 250 000 euros. Et là aussi, tout est explosé. Elle a coûté in fine 1 million d'euros, ce qui fait quand même cher la baignade. Hein.
Ah ben, c'est x 4. Ouais. C'est x 4.
Et d'ailleurs, la Cour maintenant s'interroge sur l'utilité de ces centres de vacances. Ils sont très peu fréquentés, car seuls 17% des salariés de France Télévisions les utilisent, et notamment en raison du prix des séjours, excessif jugé par la Cour, c'est 3 000 euros la semaine, ce qui est très cher. Ce qui fait dire aux magistrats aujourd'hui que l'argent dépensé pour maintenir des centres à 2/3 vides pourrait être consacré pour financer, par exemple, des séjours à l'étranger.
Attendez, ce que j'ai pas compris, les centres sont vides. C'est tellement cher que les centres sont vides et que l'argent va surtout au permanent.
Exactement.
Et si j'ai bien compris, tout se passe en France.
Alors, pas seulement, Philippe. Il y a également un catalogue de séjours exclusivement haut de gamme qui est proposé aux salariés de France Télévisions et de Radio France et de l'INA. Des séjours en Birmanie, au Cambodge, en Tanzanie, en Namibie ou en Thaïlande. Ils sont extrêmement chers, si bien que la Cour des comptes demande que ce catalogue de séjours soit entièrement revu de fond en comble, avec des destinations beaucoup moins chères et sans doute plus attractives.
Pour conclure,
je vais terminer avec le cas d'une médiathèque quasi déserte, avec 5 emprunts de livres ou DVD par jour en 2017 pour 7 heures d'ouverture quotidienne.
C'est pas vrai, c'est-à-dire qu'attendez, on n'emprunte même pas un livre par heure.
Absolument, et un coût de fonctionnement quand même annuel de 200 000 euros. Ben, la Cour a estimé que cette médiathèque était un non-sens absolu. Elle préconise dans son rapport, en conclusion, la fermeture pure et simple de ce service.
Alors là, c'est une mauvaise nouvelle, parce qu'il va falloir rendre les 5 livres empruntés en 7 heures. Merci beaucoup, Renaud Revel. Je précise qu'on retrouvera l'intégralité de votre enquête demain dans votre rubrique média du JDD, le journal du dimanche.
Tout à fait.
Europe 1.
Dans un instant, l'apéro, le replay télé avec Eva Rock et comment réaliser une tomate liégeoise. Oui, c'est la recette proposée pour l'apéro par Cédric Béchade. Il est le chef de la table de l'Auberge Basque à Saint-Pé-sur-Nivelle dans les Pyrénées-Atlantiques. A tout de suite sur Europe 1.
Jusqu'à 20h, vous écoutez votre grand journal du soir avec Philippe Vandel. Eva Rock nous a rejoint pour le replay, Philippe.
Bonsoir Eva Rock.
Bonsoir Philippe Vandel.
Alors Eva, comme toutes les semaines, vous avez repéré des programmes à la télévision qu'on aurait manqué, mais qu'on peut voir ou revoir en replay.
Exactement. Alors trois programmes dans trois genres très différents, mais dont l'accès est gratuit.
Et ça débute par un reportage.
Oui, un sujet qui a été diffusé aujourd'hui à 13h15, après le journal de Laurent Delahousse sur France 2, et qui est intitulé « Paul, une rentrée comme les autres ». Alors Paul, il a 9 ans. C'est un petit blondinet craquant qui a la chance, malgré son autisme, d'être intégré dans une école de public de Suresnes. Et grâce au soutien de l'enseignante, de son auxiliaire de vie, des autres élèves, mais aussi évidemment de sa famille, les progrès du garçon sont considérables. Tout le monde se mobilise pour le stimuler intellectuellement notamment et l'aider à progresser. Et Philippe, ça marche. Paul progresse énormément et les enfants à son contact développent eux aussi des notions de solidarité.
C'est un peu particulier quand même, il ne parle pas beaucoup comme copain.
Bah oui, mais je l'aime parce qu'en fait il n'est pas comme les autres, du coup je m'habitue à lui. Et c'est pratique parce que quand je serai grande, bah au moins je saurai comment m'occuper des autres handicapés.
Et la première fois que tu as vu Paul, tu as pensé quoi?
Bah j'avais peur de lui, je voulais pas le voir, l'avoir dans ma classe.
Ce reportage, Philippe, c'est une bouffée d'oxygène et une bouffée d'espoir aussi pour toutes les personnes autistes et leurs familles. Si vous voulez d'ailleurs des renseignements sur l'autisme, je vous conseille le site autismesansfrontières.com et ce magnifique reportage est à revoir gratuitement sur le site france.tv.
Et puis on va rester dans le domaine médical avec votre deuxième choix.
Alors exactement, pour un des plus beaux documentaires de ces derniers mois, titre très poétique, Petits arrangements avec la vie, pour parler de la mort. C'est un film qui est signé Christophe Ostendberger. Je ne sais pas si vous connaissez ce réalisateur, moi j'ai toujours aimé ses documentaires. Oui. Il était atteint d'un cancer, il a voulu réaliser ce dernier film, tourné dans un hôpital breton. Son objectif, c'était comprendre le rapport à la maladie, à la mort, se comprendre soi-même parce qu'il était atteint d'un cancer. Alors au début, il va garder une distance avec les patients avant de les apprivoiser et lui, de se laisser apprivoiser. L'interviewé et l'intervieweur se mêlent en fait, comme avec cette dame qui évoque son mari décédé.
C'est marrant quoi, mais... Je lui parle comme s'il était là.
Alors qu'il est là-haut.
Alors qu'il est là-haut.
C'est loin en plus, là-haut ou pas? Ça, c'est...
Ah ben, je suis pas allé jusque-là, puis ça n'a pas de mal, puisqu'il revient pas. C'est ça qui est couillon, quoi. Il n'y a pas rien qui descend pour nous dire comment que c'est.
Il n'y a même pas un con qui envoie un texto.
Ah non, ça c'est pas mal. On va lui qu'il n'y ait pas de téléphone. Oui, c'est vrai, il va falloir créer un service téléphonique.
Si j'ai bien compris, si je lis entre les lignes, oui. C'est son dernier documentaire, Ostendberger.
Exactement, mais il n'a même pas pu le finir d'ailleurs, puisqu'il est décédé en juin 2017 à l'âge de 55 ans. Et c'est Stéphane Mercurio qui était son ami, celle qui a partagé un temps sa vie, qui a terminé ce film qui est empli de poésie, de drôlerie et d'émotion. C'est vraiment un petit bijou et c'est à revoir sur arte.tv.
Enfin, un troisième choix, une série, pas n'importe laquelle, la nouvelle série que TF1 a lancée en grande pompe. Ça a démarré jeudi, je crois.
Exactement, alors si vous n'avez pas vu cette nouvelle série jeudi soir, elle est encore disponible sur mytf1.fr. Il y avait 5 millions de téléspectateurs qui étaient déjà au rendez-vous ce jeudi.
C'est pas mal, c'est un
voilà,
bon score.
C'était un très bon lancement. Ambiance.
Il faut que vous le considériez comme accro. Accro au meurtre. Il est déjà peut-être en train de repérer sa prochaine victime.
Eva, tout à votre enthousiasme,
mais
vous
oui.
N'avez pas dit le titre de la série.
Non, voilà, c'est une petite surprise. Ça s'appelle Insoupçonnable. C'est adapté de l'excellente série britannique The Fall. Insoupçonnable, c'est un duel entre une criminologue et un tueur en série. Alors, dès les premières secondes, vous allez savoir qui est l'assassin. Mais c'est un peu comme dans Columbo. En fait, l'intérêt, c'est l'enquête. Ce jeu du chat et de la souris aussi dans les rues de Lyon qui rythme cette série portée par Emmanuel Seignier et Melville Poupeau qui est absolument magistral, un thriller psychologique très efficace, c'est à revoir sur le site de TF1, mytf1.fr.
Merci beaucoup.
Merci Laroque. Philippe Vandel.
À la semaine prochaine.
Vous êtes toujours sur Europe 1 et en compagnie de Philippe Vandel. 18h55, c'est l'heure de l'apéro, Philippe.
Mais exactement, bonjour Cédric Béchade.
Bonjour.
Vous êtes chef du relais château et chef de la table de l'Auberge Basque à Saint-Pé-sur-Nivelle. C'est dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est quoi votre idée de planche apéro?
Alors ce soir, c'est une tomate liégeoise. On arrive sur la fin de la saison, mais il faut qu'on en profite. On va créer donc une petite panna cotta à la mozzarella. C'est-à-dire qu'on va mixer 150 g de mozzarella avec du lait, 75 g de lait, de la crème, du sel et puis une feuille de gélatine. Tout ça, on va le mixer, le chauffer et puis on va le mouler dans un petit verre. Et ensuite, on réalise un sorbet. On va mettre du jus de tomate verte, du céleri et du concombre dans une centrifugeuse ou dans un pressoir à légumes, et on va extraire le jus. Et là, on a 200 g de chaque jus. On va mixer 200 g de basilic avec 20 g de jus de citron. On le mixe, tout ceci bien bien broyé, et puis on le met dans des moules à glaçons au surgélateur. Une fois que c'est surgelé, bien sûr, on le garde comme ceci. Et puis on termine avec une chantilly à la tomate. C'est une purée de tomate rouge réduite, bien bien concentrée. Et on prend 500 g de crème liquide qu'on fait réduire de moitié, donc c'est-à-dire à 250 grammes. On mélange les deux, on le met dans un siphon avec une cartouche de gaz. Et ensuite, au dernier moment, quand vous allez vous inviter, vous mettez votre glaçon et votre sorbet basilic au centre sur la panna cotta mozzarella. Et ensuite, vous rajoutez la chantilly tomate par-dessus. Il n'y a plus qu'à déguster.
Bah dis donc, il n'y a plus qu'à déguster.
C'est compliqué.
Dis donc, on fait 5 ans d'école hôtelière pour réussir ça. Alors moi, je vais vous demander un truc beaucoup, beaucoup plus simple à faire. En 5 secondes, avec ça, qu'est-ce qu'on boit? D'un mot.
Un vin rosé, si possible, du Pays Basque, un Irulegui rosé de la maison Arretxea.
Ah, dis donc, faites pas de la pub pour vos copains. Je vous remercie, Cédric Béchat. Je rappelle, vous êtes le chef de la table de l'Auberge Basque à Saint-Pé-sur-Nivelle, dans les Pyrénées-Atlantiques. Et si, je m'adresse aux auditeurs, vous avez une heure devant vous, vous pouvez faire cette recette le temps que ça congèle. Merci beaucoup.
Europe 1.
Dans un instant, le journal de 19h de Sophie Dussault.
18h, 20h.
Philippe Vandel sur Europe 1.
Dans la deuxième heure de ce 18-20, le journal de Sophie Dussault, la météo, le journal de sport qui va évidemment revenir sur la très belle victoire de l'équipe de France en Coupe Davis. Et puis ensuite un document. Le grand reporter Kamal Redouani a saisi en Libye l'ordinateur d'un émir de Daesh, l'État islamique. Et ce qu'il y a découvert est terrifiant. Et puis dans la dernière demi-heure, on va parler de culture avec le groupe Justice, un duo français d'électro en tournée mondiale. Et puis je serai avec un sacré trio, Vanessa Zab, Diane Chenouda et Nicolas Caro. À tout de suite.
Vos réactions, vos commentaires, on les attend sur notre page Facebook Europe 1 ou encore Twitter avec le hashtag Europe 1. 19h, bon début de soirée à tous. Le journal vous est présenté par Sophie Dussault et vous, Philippe Vandel.
Bonsoir Sophie.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Au sommaire de votre journal de 19h.
Les retrouvailles publiques d'Emmanuel Macron et de Stéphane Bern en marge des journées du patrimoine. L'occasion d'effacer les récentes tensions entre le président et l'animateur. Marine Le Pen à Fréjus ce week-end, une rentrée politique très discrète pour le Rassemblement National. À le rétropédalage du gouvernement, l'exit tax qui vise à empêcher l'exil fiscal des entrepreneurs ne sera finalement pas supprimé. Et puis, 10 ans après la faillite de Lehman Brothers, une nouvelle crise économique n'est pas exclue.
Europe 1.
Les journées du patrimoine marquent la bonne entente retrouvée entre Emmanuel Macron et Stéphane Bern.
Le président et l'animateur étaient ce matin à la Villa Viardot à Bougival, seul édifice de la région parisienne sélectionné pour le loto du patrimoine. C'était la première fois qu'ils s'affichaient ensemble publiquement depuis le coup de gueule il y a 2 semaines de Stéphane Bern qui dénonçait un manque de moyens et menaçait de quitter la mission du patrimoine s'il était pris pour un pantin. Et finalement, ce matin, chacun a fait bonne figure. Mathieu Bock était à Bougival pour Europe 1.
C'est au son de l'hymne à la joie qui avait déjà été joué au Louvre le soir de son élection que le président est arrivé à pied avec son épouse Brigitte. Sur le perron de cette villa du 19e siècle qui tombe en ruine, Emmanuel Macron a salué Stéphane Bern, écartant toute tension entre les deux hommes.
Il y a un an, on lançait la mission de Stéphane Bern. Il y a un an. On était ensemble d'ailleurs dans la maison d'Alexandre Dumas avec Stéphane Bern et la ministre. Beaucoup de gens pensaient que ce serait une énième mission, etc. Il y a eu plus de 2000 projets qui ont été portés, 250 ont été retenus, des financements, et ça n'est que le début. Parce que nous allons en effet prendre des dispositions complémentaires et poursuivre ce travail.
Stéphane Bern, lui, assume d'avoir lancé la polémique qui était nécessaire d'après lui.
J'ai dit ce que j'avais à dire sur le plan du patrimoine, il m'a entendu. Il est allé à Villers-Cotterêts, il a gratté son ticket de grattage et il a dit qu'il me soutiendrait, en tout cas dans ma mission patrimoine. Et d'ailleurs, je suis très heureux de l'accueillir ce matin à la Villa Viardot, puisque c'est sous mon impulsion que cette villa a été inscrite dans ma mission. Et bien la consécration, c'est aujourd'hui de voir que cette villa est non seulement inscrite dans la mission, mais également que le chef de l'État nous fait l'honneur de la visiter avec son épouse.
Mais la Villa Viardot n'est pas sauvée pour autant, car sur les 3 millions nécessaires à sa restauration, seuls 500 000 euros proviennent de la Fondation du patrimoine.
Mathieu Bock à Bougival pour Europe 1. Emmanuel Macron a salué les excellents résultats de la mission menée par Stéphane Bern. 14 millions d'euros ont déjà été engrangés. Les premiers chèques ont été remis aujourd'hui aux sites concernés. En marge de cette mission patrimoine, l'Élysée a mis en place une boutique en ligne. On peut y acheter différents objets à l'effigie du président. Les recettes serviront à financer la restauration du palais présidentiel. Mais son lancement est marqué par un gros raté, Jean-Jacques Herry.
Oui, au départ de ce raté, on a une entreprise, Mug in France, qui répond à une commande de l'Élysée, à savoir la fabrication de 3 mugs estampillés Présidence de la République, reconnaissables à leur liseré tricolore bleu, blanc, rouge. Des objets vendus pour la modique somme de 24,90 €. Mais le problème, en l'occurrence, ça n'est pas le prix, mais une petite inscription sous les tasses. On peut lire « Porcelaine de Limoges », tromperie sur la marchandise, hurlent les professionnels du secteur. Car depuis décembre dernier, la porcelaine de Limoges est ce que l'on appelle une indication géographique protégée. Les objets doivent être fabriqués à Limoges ou dans le département de la Haute-Vienne. Or, l'entreprise Mug in France est implantée en Dordogne et fait décorer ses tasses près de Toulouse, soit presque 300 km au sud de la capitale limousine. Face à la polémique, l'entreprise décide alors de détruire dans l'urgence son stock de mugs, plaidant la bonne foi et la méconnaissance des règlements. Et lorsqu'elle finit par livrer seulement 300 tasses à l'Élysée, elles sont cette fois-ci estampillées porcelaine française, une indication géographique beaucoup plus large. Ce sont ces tasses qui sont actuellement vendues par le palais. Reste que l'affaire n'a pas du tout plu à l'Élysée. Sur le site de la boutique, on peut toujours lire ce soir « Nous sommes plus que fiers de travailler main dans la main avec Mug in France ». Une phrase qui devrait bientôt disparaître puisqu'on l'a appris tout à l'heure, la présidence a décidé de ne plus collaborer avec son fournisseur.
Merci Jean-Jacques Herry.
Bercy fait machine arrière et renonce finalement à supprimer l'exit tax.
Oui, c'est une taxe qui vise à empêcher l'exil fiscal des entrepreneurs français. Emmanuel Macron avait déclenché une polémique en mai dernier en annonçant sa prochaine suppression. Et finalement, François Geffrier, la taxe exit sera modifiée.
Oui, disons qu'elle est fortement allégée mais qu'elle existe toujours. Jusqu'à présent, quand un contribuable disposant de plus de 800 000 euros en actions quittait la France, il devait déclarer la plus-value latente, c'est-à-dire déclarer ce qu'il gagnerait, conditionnel, s'il revendait à ce moment-là. Et pendant 15 ans, chaque année, il devait refaire un point avec le fisc français. Avec le nouveau système, ça ne sera plus 15 ans, mais 2 ans. Au-delà de 2 ans, le contribuable pourra revendre ses actions sans en référer à la France. Autre simplification, jusqu'à présent, au moment de quitter la France, il fallait constituer une garantie auprès d'un comptable public. Désormais, ce ne sera pas nécessaire, sauf si le contribuable s'en va dans un pays qui n'a pas de convention fiscale avec la France. Alors, cette taxe, elle est très symbolique à tous les sens du terme. Symbolique parce qu'elle rapporte peu au regard du budget de l'État. En moyenne, 23 millions d'euros par an entre 2012 et 2017. Elle a concerné environ 400 contribuables chaque année. Mais symbolique aussi parce que le président, ni de droite ni de gauche, souhaitait supprimer une mesure mise en place par Nicolas Sarkozy. Une exit tax jugée néfaste pour l'attractivité de la France, selon Emmanuel Macron.
Merci François Geffrier du service économie d'Europe 1.
Marine Le Pen donne ce week-end le coup d'envoi de sa campagne européenne. On en parle dans un instant.
19h07, la suite du journal, Sophie Tussaud, Philippe Vandel.
Marine Le Pen qui se lance dans la bataille des européennes.
La présidente du Rassemblement National est à Fréjus, dans le Var, ce week-end. Une rentrée politique très discrète, marquée par les affaires et les difficultés financières, Adrien Beck.
Ah oui, rien de bien clinquant, seulement quelques affiches fraîchement collées sur des panneaux à l'entrée de la ville, une rangée de drapeaux bleu-blanc-rouge devant le théâtre municipal. C'est là que se réunissaient aujourd'hui entre 200 et 300 élus pour une journée de formation. On est bien loin de l'ambiance des universités d'été du Front National, symbole d'une rentrée sans argent pour Marine Le Pen. Mais Laurent Jacobelli, délégué national, préfère balayer les problèmes financiers d'un revers de main.
La question n'est pas de savoir si le Rassemblement National est riche, endetté, pas endetté, pauvre. La question est qui a raison ? Qui a le bon projet pour l'Europe ? Clairement, c'est ça qui intéresse les gens. Les problèmes d'emploi, les problèmes de retraite, les problèmes de taxes, les problèmes d'immigration, les problèmes de sécurité. Et ils savent qu'aujourd'hui, Macron n'a pas les réponses et que nous, on les a.
Manière d'amorcer un duel Macron-Le Pen en vue des élections européennes dans 8 mois. Ici, on ne parle d'ailleurs que du dernier sondage qui donne le RN au coude à coude avec En Marche. Un peu de baume au cœur pour les élus au milieu d'une rentrée, pour l'instant, compliquée.
Adrien Beck à Fréjus pour Europe 1. Dans l'actualité internationale, la nature déchaînée, les Philippines et Taïwan sont violemment frappées par le super typhon Mangkhut. Les vents ont atteint par endroits 330 km à l'heure. Au moins 8 personnes ont été tuées. Plus de 100 000 habitants ont dû quitter leur domicile. Le typhon se dirige à présent vers des zones très peuplées de Chine. Aux États-Unis, c'est la tempête tropicale Florence qui déverse des quantités d'eau monumentales. Selon les mots du gouverneur de Caroline du Nord, au moins 5 personnes sont mortes. mortes. Des dizaines d'habitants ont été pris au piège par la montée des eaux à leur domicile.
Ce 15 septembre marque un triste anniversaire pour l'économie mondiale.
Oui, les 10 ans de la faillite de la banque américaine Lehman Brothers, point de départ d'une gigantesque débâcle financière. 10 ans après, les risques d'une autre crise économique ne sont pas écartés. Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque Centrale Européenne, était l'invité ce matin d'Europe 1.
Il y a des indicateurs de vulnérabilité dans le monde qui sont inquiétants. Un bon indicateur d'une des causes du drame qui s'est noué il y a 10 ans exactement, c'était qu'il y avait une accumulation de dettes publiques et privées dans la période qui avait précédé.
Et c'est pareil aujourd'hui.
Une forte accumulation. Si tant est que cet indicateur de vulnérabilité soit pertinent, soit juste, alors on est aujourd'hui dans une situation qui appelle une très grande vigilance.
Donc rebelote.
Et bien entendu, une correction. Il faut s'attaquer dans le monde entier, hein, pas simplement dans les pays avancés, parce que maintenant les pays émergents ont commencé eux-mêmes de s'endetter beaucoup et beaucoup plus qu'avant.
Donc les États vivent à crédit, les ménages vivent à crédit, le monde entier vit à crédit, donc ça va claquer comme il y a 10 ans.
Je ne dis pas nécessairement cela.
Les dangers sont canalisés ou pas ?
Non, bien entendu.
Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, était l'invité de la matinale de Bernard Poirette ce matin sur Europe 1.
C'était le journal de Sophie Dussault. Merci Sophie.
Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcadeB. Plus d'infos sur arcadeb.com. ArcadeB vous présente la météo.
La météo, c'est avec ce délicieux son Valérie Darmon. Demain, le ciel est bleu. Il va même faire chaud l'après-midi.
Et oui, l'anticyclone des Açores maintient un temps bien ensoleillé et grâce au vent orienté au sud, les températures grimpent encore en hausse de 2 à 5 degrés par rapport à ce samedi, s'échelonnant de 23 en bord de Manche à 33 en Aquitaine. L'après-midi, elles sont supérieures de 3 à 8 degrés au normal de saison. Le matin, les minimales sont comprises entre 8 du Val-de-Loire aux Hauts-de-France et 22 près de la Méditerranée. C'est très, très contrasté tout au long de notre journée côté température. Du côté du ciel, des Pays de la Loire, aux côtes de la Manche. Belle amélioration malgré quelques nuages élevés toujours. De l'Aquitaine aux Charentes, au Jura, au Grand Est, Massif central, le soleil brille du matin au soir. De l'Occitanie à la Provence Côte d'Azur, le ciel est voilé. Sur les Pyrénées, les Alpes, quelques orages peuvent éclater en fin de journée. Et du côté du vent, le marin, l'OTAN, le vent du sud sur le Lyonnais souffle jusqu'à 50 km/h en rafale dans la soirée.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Le journal des sports.
Le journal des sports avec vous Axel May et on revient sur la victoire française en demi-finale de la Coupe Davis.
Ah oui, la France est en finale grâce à cette victoire de la Coupe Davis pour la deuxième année consécutive. Le double Mahut-Benedetto a battu cet après-midi la paire espagnole Granollers-Lopez et avant même les matchs de demain, les Bleus, vous l'avez compris, sont donc assurés de défendre leur titre. Ce sera face à la Croatie ou face aux États-Unis fin novembre. Et évidemment, beaucoup d'émotions chez l'un des héros du jour, Julien Benedetto. Il est au micro de l'envoyé spécial d'Europe 1 Villeneuve-d'Ascq, Corinne Boulou.
Quand on vit des émotions comme ça, pourquoi les contenir ? Puis de toute façon, on ne se force pas. Quand on vit des moments comme ça magnifiques, c'est indescriptible. Et de pouvoir partager ça en équipe avec Nico, avec ma famille, des amis qui sont venus, avec tous les membres du staff, évidemment. C'est des choses qui sont fortes et qui rejaillissent de manière forte aussi dans des moments aussi beaux que cela.
Et puis on saura quand, si c'est la Croatie ou les États-Unis.
Eh bien les deux pays sont en train de s'affronter. Les Croates ont remporté les deux simples et il y a quelques instants, les Américains ont remporté le double. On saura ça donc demain.
Le championnat de France de football, le match de l'après-midi s'est soldé par un nul.
Match de la 5e journée de Ligue 1 entre Caen et Lyon et Jean-Louis Garros, beaucoup de rebondissements dans ce match.
C'est un match à rebondissement que nous avons eu ce soir au stade Michel Dornano entre deux équipes. Match nul, 2 partout alors que les Canets étaient réduits à 10 assez rapidement. Et une dernière expulsion d'une équipe canaise qui a fini à 9 face à des Lyonnais à la peine. Ils auront beaucoup de mal. Mercredi prochain, ce sera en Ligue des Champions.
Et la suite de cette 5e journée de Ligue 1, ce sera dès 20h dans Europe 1 Sport, présenté par Lionel Rosso.
Cyclisme, les Britanniques sont décidément dominateurs cette saison sur les grands tours.
Après Froome sur le Giro, Thomas sur la grande boucle, c'est Simon Yates qui remportera, sauf accident, le Tour d'Espagne demain à Madrid. Le grimpeur anglais a conservé son maillot de leader à l'issue de la dernière étape de montagne cet après-midi en Andorre. En boxe, alors que ce soir à Las Vegas se déroulera un combat très attendu entre le champion du monde des poids moyens, le Kazakh Golovkin, et le Mexicain Alvarez, figurez-vous Philippe que l'Américain Floyd Mayweather, 41 ans, annonce qu'il remontera sur un ring d'ici le mois de décembre. Mayweather Jr. affrontera son grand rival philippin Manny Pacquiao, hein, des retrouvailles 3 ans après un premier duel présenté à l'époque, vous vous en souvenez peut-être, comme le combat du siècle et qui avait surtout été un combat très rémunérateur pour les deux hommes.
Oui, en même temps, il peut monter sur le ring et puis s'en prendre une. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il va gagner. Hein.
Allez, on ne peut pas se quitter sans parler de l'un de vos sports préférés, la Formule 1 à Singapour, dans l'étuve du circuit urbain de Marina Bay. Lewis Hamilton a réalisé le meilleur temps des qualifications. Demain, le champion du monde anglais partira devant le néerlandais Verstappen et son dauphin au championnat, l'allemand Sébastien Vettel.
C'était le journal des sports. Merci beaucoup, Axel.
Europe 1.
À suivre, un document terrifiant, le grand reporter Kamal Redouani a saisi en Libye l'ordinateur d'un émir de Daesh, seigneur de la ville de Sirte. Ce qu'il y a trouvé glace le sang, des plans d'attentats, le planning des condamnations à mort, le pillage des populations au nom de l'impôt islamique et même des lettres d'amour à lui destinées, tout de suite après ceci.
Votre grand journal du soir se poursuit avec vous, Philippe Bandel, et votre invité, un grand reporter spécialiste du Moyen-Orient.
À quoi ressemble le monde vu du côté islamique, l'organisation terroriste qu'on appelle Daesh en Occident et qui veut installer la charia partout sur la planète? On a un élément de réponse avec un document exceptionnel, un double document signé du journaliste grand reporter Kamal Redouani. Il a passé plus de 12 ans à infiltrer les groupes djihadistes et puis, en 2016, lors de la chute de la ville de Sirte en Libye, il met la main sur l'ordinateur personnel de l'émir de la ville, la plus haute autorité de Daesh dans cette région, également sur le téléphone portable d'une de ses employées. Il en a tiré un livre, Dans le cerveau du monstre, c'est sous-titré Les documents secrets de Daesh et un documentaire diffusé sur France 5, mardi le 18 à 20h50. Bonsoir Kamal Redouani.
Bonsoir.
Vous-même, qui pensiez très bien connaître les groupes islamistes, vous avez regardé des centaines d'heures de vidéos de propagande d'Al-Qaïda, de Daesh, et là, vous reconnaissez dans votre texte que ces milliers de fichiers, de notes, de courriers et de photos trouvées ont, je vous cite, ébranlé vos certitudes. Qu'avez-vous découvert dont vous ne soupçonniez pas l'existence ?
Tout simplement que Daesh finalement n'a rien à faire d'un territoire, n'a rien à faire d'armes ni d'argent. Ils ont compris que leur survie dépend de cette transmission du savoir djihadiste. Enfin, quand on découvre ça, on découvre quoi ? On découvre que l'État islamique n'est pas fini, que ça va continuer, parce que cette transmission du djihad, de comment faire le djihad, c'est former les générations futures et finalement c'est interminable.
Je vais commencer par la genèse de votre découverte. C'est grâce à un dénommé Omar qui a mis la main sur cet ordinateur. On écoute un extrait du documentaire de France 5.
Pendant la guerre contre Daesh, j'ai trouvé un ordinateur. Quand je me suis mis à regarder ce que contenait son disque dur, j'ai découvert des documents sur des explosifs, sur la fabrication de mines, sur des attentats. J'étais effrayé. Je ne savais pas à qui en parler. J'avais peur de les diffuser et que Daesh me tue.
Omar est toujours en vie ?
Tout à fait.
C'est vous qui avez diffusé ce que vous avez découvert dans cet ordinateur. D'abord, qui était cet émir ? Comment s'appelait-il ? Quel était son rôle ?
L'émir, il a plusieurs noms, plusieurs pseudos, etc. C'est pas un jeune djihadiste, c'est un ancien d'Al-Qaïda. Il a fait la guerre aux côtés de Ben Laden en Afghanistan. Il était l'un des hauts responsables d'Al-Qaïda. Il est même l'ami du Al-Zawahiri, qui est le numéro un d'Al-Qaïda aujourd'hui. Et il est passé par la case prison en Égypte, qui est son pays d'origine, avant d'être libéré lors des révolutions arabes, lors de l'amnistie générale. Et puis après, il a rejoint, il a créé l'État islamique en Libye.
Vous donnez son nom, Abu Abdallah Al-Masri, c'est une sorte de pseudo Al-Masri, ça veut dire l'égyptien, si
exactement.
Je vous ai bien lu. Quel était son rôle dans la ville de Sirte ?
Son rôle, c'était l'un des hauts responsables, sinon le haut responsable de...
Je me permets de vous interrompre, parce que je l'ai lu dans votre livre. Mm-hmm. Il dirigeait la Hizba, vous expliquez que c'est la police islamique, la Hijra, j'espère que je prononce bien, les déplacements, et il s'occupait des Sabayas, qui étaient les esclaves.
Exactement.
Et là, on apprend dans ce livre que il y avait des esclaves officiellement recensés, répertoriés, notamment chez les combattants. L'émir tenait une classification en registre avec le nom des combattants, le nombre de leurs épouses, de leurs enfants et de leurs esclaves.
Exactement. Il organisait tout. Au fait, c'est des tableaux Excel qu'il avait sur son ordinateur. Donc, on a le nom, par exemple, du juge, de son propre juge qu'il a lui-même nommé avec sa femme, ses enfants, mais aussi le nombre d'esclaves qu'il avait. C'est lui qui organisait, qui offrait les esclaves aux djihadistes les plus méritons.
Il y a également des registres, il y a aussi des plans, notamment par exemple, ce que vous montrez dans le livre, on le voit dans le documentaire, des plans de New York avec des projets d'attentats extrêmement circonstanciés.
Ça c'est effrayant, c'est-à-dire moi quand j'ai cliqué sur cette photo et quand j'ai découvert ce plan, on se pose des questions à ce moment-là, on se dit mais qu'est-ce que j'ai entre les mains? Est-ce qu'ils veulent organiser un attentat à New York? Est-ce que voilà, c'est ce que j'ai découvert, c'est ce plan-là date d'il y a quelques années, mais il sert au fait comme base finalement pour cette éducation du djihad. Il sert pour montrer comment un attentat peut s'organiser, comment ils peuvent faire mieux aujourd'hui que demain qu'autrefois.
Oui, parce qu'il y a de l'analyse. Il y a par exemple une analyse circonstanciée, dans le marketing on appelle ça du benchmark, on compare ce que font les autres, des attentats en gare de Madrid, qu'on fait des centaines de morts avec là c'était bien, là c'était moins bien, là on n'a pas réussi ça, là les fils étaient mal disposés, ça n'a pas explosé, ça fait froid dans le dos de voir ça.
Exactement, et quand on découvre aussi le questionnement des djihadistes derrière, qui sont avides de connaissances et qui se posent des questions et qui posent des questions et on leur répond, c'est-à-dire il y a des échanges de courriers, il y a des choses incroyables. Enfin moi je suis franchement, cette université du djihad est effrayante parce qu'on se dit que les générations futures sont déjà formées aujourd'hui.
Alors il y a une partie presque fleur bleue parce que dans l'ordinateur de cet émir, il y a aussi ses mails personnels et vous avez retrouvé des lettres de ses quatre épouses. La plus jeune lui décrit les nuits torrides qu'elle passe avec lui et elle n'hésite pas non plus à se moquer des trois épouses. Vous vous souvenez ce qu'elle lui dit?
Qu'elle serait, de mémoire comme ça, que c'est dans son lit finalement qu'elle trouvera le bonheur.
Page 67, il n'y a que dans mon lit, écrit-elle à l'émir, que tu peux jouir et trouver le bonheur. Sous-entendu, ne va pas avec les trois autres qui sont trop âgées. On plaisante, il y a aussi toute la liste des magistrats, car c'est lui qui les nomme, et c'est lui aussi qui est en charge d'appliquer la charia. Donc il a découvert, il a pris des textes anciens d'exégèse du Coran pour justifier le fait qu'on coupe la tête, un bras ou la langue ou Dieu sait quoi.
Exactement, et il organisait ça sur la place Ully quand ça l'arrangeait. C'est lui qui a autorisé une condamnation à mort sur la place publique. Il demandait même parfois à la famille, c'est-à-dire au père, à la mère, d'assister à la décapitation de leur propre enfant. C'est de la barbarie totale.
Alors vous ne vous êtes pas contenté de décrypter un disque dur et un téléphone portable, Kamal Redouani. Vous avez aussi longuement enquêté sur le terrain et vous répondez à cette question qui ouvre le chapitre 14. Je vous cite. Pourquoi l'État islamique s'est-il attaqué à l'Europe alors qu'il jouissait, en Libye, en Irak, en Syrie, d'un territoire aussi grand que la Grande-Bretagne et que les pays occidentaux hésitaient à envoyer des troupes au sol pour limiter son avancée? C'est une très bonne question et je vous la pose.
C'est une question que je me suis posée longuement parce que je me dis mais c'est complètement débile. Pourquoi il s'attaque à l'Europe? Pourquoi il s'attaque aux États-Unis? Enfin bref, pourquoi il s'attaque à l'Occident au lieu de simplement
être maître chez eux?
Ben oui, complètement. Donc
votre réponse.
Mais la réponse c'est qu'ils étaient divisés en deux. Ce qu'on ne sait pas, c'est que les groupes, au fait, l'État islamique, il y avait deux idéologies, il y avait deux visions de l'État islamique. Il y a ceux qui voulaient finalement rayer de la carte le nom de Ben Laden, c'est-à-dire faire des attentats à l'étranger et faire mieux que Ben Laden et rester dans cette clandestinité finalement. Il y a ceux qui voulaient absolument avoir un territoire, un drapeau, des frontières et négocier avec les pays voisinants et créer finalement un État sunnite qui va de la Syrie jusqu'à la Libye, voire un petit peu plus.
Et alors vous expliquez que contrairement à ce qu'on croit en Occident, le but des attentats n'était pas de donner la mort au plus grand nombre.
C'est ce que j'ai découvert, moi, dans ces documents. J'ai découvert que finalement, même un attentat raté est un attentat réussi, parce que pour eux, l'essentiel, c'est de déstabiliser les pays, mais les déstabiliser économiquement. C'est-à-dire, un attentat ou un attentat raté dans un aéroport va obliger les pays d'organiser leur sécurité et finalement de mettre énormément d'argent pour protéger un aéroport. Donc, c'est comme ça qu'ils raisonnent. C'est ce que j'ai découvert dans ces documents.
Vous le recopiez en toutes lettres. Pour l'émir, l'essentiel est d'obliger les compagnies aériennes à dépenser des sommes considérables pour se protéger. Pour $300 d'investissement pour les djihadistes, les États doivent débourser $40 milliards pour éviter nos actions. Le calcul est vite fait, écrit l'émir.
Exactement. Et il y a même un smiley à la fin de ce document.
Vous n'avez pas mis le smiley dans le livre. Selon vous, selon vos informations, l'État islamique est en grande partie détruit. Ou est-ce que il est comme un fauve blessé dont on dit qu'il est encore plus dangereux?
Moi, je pense qu'il n'est même pas blessé. Enfin, il a perdu un territoire.
Il est mort quand même. il a été décapité. Cet émir dont nous parlons, il est mort, par exemple.
L'émir est mort.
Mais l'État islamique Daesh.
Mais honnêtement, les groupes terroristes, on coupe une tête, il y en a d'autres. Et ils ont déjà formé les générations futures. À Sirte, par exemple, ils ont fait fuir des responsables pour la formation. Donc, ils ont choisi un responsable de la Hijra, des déplacements, un responsable pour la formation militaire, un responsable pour l'idéologie islamique. Ils ont fait fuir ces gens-là qui sont là pour recréer finalement un autre État islamique.
Merci beaucoup Kamal Redouani d'être venu nous voir. Dans le cerveau du monstre, c'est chez Flammarion et le documentaire passera sur France 5 mardi 18 à 20h50. Merci encore.
Merci.
Europe 1.
La dernière ligne droite, la demi-heure culture avec le groupe Justice, le duo français d'électro en tournée mondiale, à qui je réserve une question de tous les fagots, mais je ne vous en dis pas plus. Et puis au menu également, Stephen King, le maître mondial des romans suspense qui font peur et qui t'empêchent de dormir. Du coup, tu poses le livre, mais quand même, tu le reprends. C'est tout de suite.
La dernière demi-heure de votre grand journal est dédiée comme chaque samedi à la culture avec vous, Philippe Vandel. Et pour ce faire, vous vous êtes entouré de spécialistes maison.
La demi-heure culturelle de cette émission. Bonjour Vanessa Zah.
Bonjour Philippe.
Bonjour Diane Chénouda.
Bonjour Philippe.
Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Philippe Vandel.
Et avec nous, Justice. Comment vous dites, Justice ou Justice?
Justice.
Justice.
Ils sont
justice
avec nous. Bonjour Gaspard Auger.
Bonjour.
Bonjour Xavier Derenay.
Bonjour Philippe.
Vous êtes les deux têtes du duo Justice. Vous êtes connus dans le monde entier. Je le précise, vous êtes français. Votre musique, pour faire court, on va dire que c'est de l'électro. C'est joué avec des synthés, mais pas seulement. Il y a des guitares et même des guitares saturées, des boîtes à rythme, des voix et surtout de l'énergie. Exemple. On s'est permis de faire un remix de votre dernier album, il s'appelle Woman Worldwide, il faut que j'arrive à le prononcer. Il suit votre précédent album Woman qui était sorti en 2016. Si j'ai bien compris, vous aviez fait un album en studio, vous l'avez joué sur scène, vous avez enregistré ce qui était sur scène, vous êtes revenu en studio avec la scène et c'est le nouvel album, c'est ça? Est-ce que j'ai bien compris?
C'est exactement ce qui s'est passé, ouais.
Pourquoi vous jouez pas sur scène le disque studio comme font tous les groupes, comme faisait Adamo, Sacha Distel?
Mais c'est parce que c'est impossible en fait. Le travail de studio, c'est un travail tellement long et minutieux. On a besoin de beaucoup de matériel, besoin de beaucoup de temps pour assembler les morceaux.
Ouais.
Et sur scène, il faudrait qu'on soit 15 et qu'on ait des dizaines d'ordinateurs et beaucoup de matériel pour pouvoir refaire ça sur scène. Donc on refait tout beaucoup plus simplement en fait.
Vous êtes combien sur scène?
Deux.
Ouais. Donc il y a vous qui jouez des synthés, plus le reste ce sont des machines, des séquences, c'est vous qui les lancez ou ça tourne tout seul?
Ça dépend des morceaux. Il y a des morceaux où on joue,
ouais.
Il y a des morceaux où notre travail c'est plus justement de séquencer l'ensemble, de le faire avancer et de fabriquer les parties qui constituent les morceaux. Donc ça dépend vraiment. Il y a des morceaux où on est tous les deux plus du côté séquençage, on est tous les deux plus en train de jouer, donc du coup ça tourne tout seul derrière. Il faut qu'on trouve sur chaque morceau de quoi faire, de quoi s'occuper les mains.
Alors là, comment vous avez travaillé ce disque, Gaspard?
Eh bien, en fait, on a enregistré une vingtaine de concerts, ainsi que des répétitions. Et ensuite, on est retourné en studio et on a pris les meilleures prises de chaque morceau. Et donc, ça a été un travail un peu un Frankenstein de plusieurs... plusieurs enregistrements.
Je vous interromps, j'aime beaucoup cette image.
D'accord,
Frankenstein, c'est un monstre qui marche tout seul. Est-ce que parfois le morceau se met à prendre une vie autonome,
Philippe,
tout seul?
Frankenstein, c'est le docteur qui crée
c'est
la créature.
Docteur, c'est vrai.
Merci Nicolas Caro d'avoir été là.
C'est le monstre de Frankenstein.
C'est la différence entre la culture et l'érudition. Est-ce que parfois un incident a créé un nouveau son, une nouvelle ambiance?
Ah, bien sûr, ouais. Notre vie est faite que de ça, presque.
C'est ça l'idée, de toute façon, j'imagine.
Ouais. Bah, pas tout le temps. Il y a des morceaux qu'on arrive quand même à contrôler du début jusqu'à la fin. Et il y a certains de nos morceaux les plus connus qui sont le fruit d'accidents ou en faisant une erreur de manipulation sur un son, on se rend compte que ça fait autre chose et on décide d'abandonner le morceau en cours pour utiliser juste cette partie-là qui a un son incroyable.
Alors pour qui n'a jamais vu Justice sur scène, je vais citer le compte-rendu des Un Rock. C'était juste après le dernier festival Rock en scène. Voici ce qu'écrit la journaliste des Un Rock. C'est de loin l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau live des années 2017-2018. Le genre de monument scénographique qui achève d'asseoir Justice en pilier de l'électro-française pour les esprits chagrins qui auraient encore douté de leur génie. C'est votre cousine qui a écrit ça.
Non, mais enfin du journalisme objectif et factuel. Moi, j'aime beaucoup cette chronique.
Alors, je vais au bout. Elle raconte le clou du spectacle, une disparition puis une réapparition du duo autour de la régie, perché en hauteur au milieu du public, avec une diffusion simultanée sur 14 écrans, un truc complètement démesuré et magistral. C'est un show qui coûte très très cher, si on comprend bien.
Qu'on n'avait pas vu depuis David Copperfield. Non, mais c'était assez... ça a bien fonctionné à Rock en Seine, ouais. Donc je pense qu'elle était présente et contente. Mais c'est un peu... c'est un show qui est assez minimal en termes de... Enfin, esthétiquement, parce que c'est que de la lumière blanche ou rouge, ou enfin, il y a un tout petit peu de couleur. C'est une sorte de mélange entre Blade Runner et Rencontre du Troisième Type, quoi. C'est assez...
Parce que quand on lit ça, c'est pas une critique, hein. On imagine un show à la Johnny Hallyday, pharaonique.
Bah pour répondre à ta question, il est vrai que nous n'avons pas gagné beaucoup d'argent sur cette tournée.
Vraiment ?
Ouais.
Tellement la production est grosse.
Non, mais on a fait le choix de... Bah disons qu'on gagnerait beaucoup plus d'argent si on était DJ.
Ouais.
Enfin, si on faisait DJ voilà, tout le temps, qui est plus lucratif. Mais c'est un investissement en fait, sur le long cours. Et on s'est dit, allons-y, retrouvons-nous un peu en slip, mais faisons allons jusqu'au bout de notre idée. Ouais.
Je vais citer personne, mais je me souviens d'un DJ l'autre été qui a dû annuler sa tournée simplement parce qu'il avait perdu sa clé USB. Ce qu'en dit long sur le travail du gars, c'est juste que c'est une clé USB. Et tu l'as pas, il n'y a plus de musique.
Mais techniquement, c'est ça. Nous, on est pareil. Si on doit aller jouer quelque part en DJ et que nous n'avons pas nos clés USB, effectivement, il faut racheter une clé USB et puis la re-remplir. On est bien peu de choses, hein.
Non mais vous jouez quand même, il n'y a pas que ça, vous mettez vos doigts sur des touches, rassurez-moi.
Ah non mais DJ et live, c'est deux choses très différentes.
Ah on est d'accord, on est d'accord. Vous êtes en tournée mondiale, c'est rien de le dire, vous êtes passé par Dublin, Manchester, Madrid, Barcelone, Milan, Lisbonne, Bucarest, Zurich et Boulogne-Billancourt. Ça paraît un peu ridicule comme ça, ça paraît Nicolas Caro, mais pas du tout, c'est que Rock en Seine c'est à Boulogne. Je vais donner vos prochaines dates, vous serez à Las Vegas le 21 de ce mois. Et puis pour Diane Chenouda, vous serez le 6 et le 13 octobre à Austin, au Texas. Et ensuite...
Et ensuite, on arrête, normalement.
Ouais. Le disque est sorti en album, en simple album, en double album et un coffret de 3 vinyles. C'est parce que c'est la mode ou est-ce que ça a un sens pour vous, le vinyle ?
C'est pour le plaisir de l'objet, comme la pochette est assez plaisante également. Et c'est parce qu'on est attaché à ce format, même s'il y a un truc un peu obsolète. Mais bon, on adore les vinyles et on...
Il y a un truc très bizarre sur les vinyles, c'est qu'on écoute toute la face.
Bah, ce qui est bien.
Ce qui nous plaît, moi les seuls albums que j'ai écoutés en entier récemment, c'est parce que je les avais achetés en vinyle et que voilà, tu poses l'aiguille au début et t'attends à la fin. Et c'est quand même assez sain finalement, parce que ça laisse aussi plus de chances de rentrer un peu dans les disques, alors que sur un téléphone, si ça te plaît pas au bout de 30 secondes, tu passes à celui d'après. En tout cas, moi c'est ce que je fais.
Vous écoutez les disques sur votre téléphone ?
Bah, très peu du coup. J'écoute très très peu de musique sur mon téléphone.
Non mais comment ? Avec un casque quand même ?
Non.
Avec un son pourri ?
Ouais.
C'est pas possible.
Ah bah les coordonnées sont les plus mal chaussées. Hein.
Ah non mais moi je pensais que les gars de justice chez eux ils avaient des enceintes
ils les ont.
50 kilos l'enceinte.
Ils les ont.
Et un son de fou qui fait bouger les vitres chez les voisins.
Ah bah ils ont les enceintes, mais quand même ils écoutent la musique en posant le téléphone dans la cuisine sur le four.
C'est vrai que vous n'écoutez quasiment jamais de musique électro.
Électro, ouais.
Ah bah jamais,
ah
ouais.
Non, jamais.
Pourquoi ?
Parce qu'il faut pas.
Pourquoi il
non,
faut pas
plaisante. Non, mais c'est simplement qu'on aime bien en faire, et parce que c'est un procédé de fabrication qui nous permet de faire de la musique depuis qu'on a commencé. Mais c'est vraiment pas une de nos influences majeures. Quoi. C'est plutôt...
Vous n'en écoutez pas parce que vous n'aimez pas ou parce que vous vous interdisez ?
Non, c'est juste que ce qu'on aime dans la musique, c'est vraiment les harmonies, en fait, c'est la musique tout simplement. Et la plupart des musiques électroniques en sont dénuées. Et voilà, on écoute quelques trucs quand même. On n'est pas anti-électronique et il y a des artistes qu'on adore. Mais globalement, on s'y retrouve plus en écoutant du rock ou des choses plus traditionnelles.
Vous avez des fans partout dans le monde. Quel effet ça vous fait quand vous voyez parfois un gars ou une fille qui a un tatouage sur le bras Justice ou Justice, suivant le pays ?
C'est une lourde responsabilité.
Ouais, c'est
quoi.
Ça. C'est compliqué parce que tu te dis, qu'est-ce qui va se passer s'il déteste l'album suivant ? Ou si un jour il écoute une interview et nous trouve complètement débile ou est pas d'accord avec nos choix, c'est un peu, ouais, c'est une lourde, ouais, c'est une grosse responsabilité.
Et ça vient d'où cette croix ?
Bah, du cri. La croix du cri,
d'accord. Ouais. Du cri ou du Christ ?
De Jean-Christ.
De Jean-Christ.
Non, mais c'est en fait, on l'a utilisé la première fois sur une pochette en 2005. On avait fait un morceau un peu christique. Mm-hmm. On s'est rendu compte que la lettre du milieu de Justice était un T, donc ça pouvait faire une croix. Et on savait que c'était un symbole très très identifié. Et que assez peu de groupes finalement l'avaient utilisé de manière non subversive. ce qui est notre cas, puisqu'on le, c'est pas du tout blasphématoire. Et on s'est dit que c'était assez marrant de l'utiliser comme ça.
Vous avez déjà tourné au Moyen-Orient ?
Non, nous n'y allons pas.
Parce qu'on vous invite pas ?
Pas non plus.
Pas beaucoup, ça arrive parfois. Mais déjà, le traverser la rue est déjà si dangereux et si compliqué. Et on se dit, restons en place sûre.
Nous aussi, on reste en place sûre, on reste sur Europe 1 et on continue avec justice. On va parler de vos débuts et je suis certain que vous ne vous attendez pas à cette question.
h 39, vous écoutez votre grand journal et on retrouve tout de suite Philippe Andel.
Retour dans cette partie culture du 18-20 d'Europe 1 et je réclame justice. Nous sommes avec Vanessa Zah, Diane Chénouna, Nicolas Carreau, Xavier Deronet et Gaspard Auger du duo français d'électro Justice. Vous êtes depuis vos débuts sur le label Headbanger, label monté par Pedro Winter. Juste une question, est-il vrai que vous devez votre présence sur ce label à une histoire de fromage fondu ?
C'est ce qui s'est passé en substance, ouais.
Non mais à quoi tiennent les carrières ?
Non mais c'est ça qui est beau, c'est à quel point la vie est circonstancielle. Il vivait à l'époque, il était en ménage avec une végétarienne, végane, assez à cheval sur les odeurs. Et en fait, un jour on faisait une raclette chez Gaspard. Il a entendu parler de cette raclette par un copain. Il a supplié cet ami en question de pouvoir s'incruster dans la raclette. En fait, il a dit, est-ce que je peux m'incruster, s'il vous plaît? C'était une fenêtre pour lui pour pouvoir manger quelque chose de gras et qui sentait mauvais, avec de la charcuterie. Et donc, il est venu à ce dîner. Et c'est là qu'on l'a rencontré. Il a écouté notre musique.
Et c'est toujours votre producteur?
Toujours, ouais.
Merci beaucoup Xavier Deronet, merci Gaspard Auger de Justice. Vous restez avec nous, évidemment. On va parler de livres. Vous lisez, vous avez le temps de lire en tournée?
Un peu, ouais.
Stephen King, ça vous parle ou pas du tout?
Les adaptations en film, oui. Les livres sont toujours assez décourageants quand tu les vois en librairie parce qu'ils ont des formats qui ne permettent pas de lire allongé.
Ok. Alors, un, je n'aime pas qu'on me tutoie. Et deux, prépare-toi à être découragé. Nicolas Carreau,
oui.
Albin publie un livre de Stephen King, mais c'est pas un roman.
Ça s'appelle Anatomie de l'horreur. Il a été publié la première fois dans les années 80. Mais depuis, les temps ont changé et King le republie avec une longue préface pour mettre à jour ses idées. Sur l'horreur, donc, ce livre, c'est une analyse des romans et des films et même des feuilletons radiophoniques qui ont inspiré King.
Alors, je dis, pour ceux qui ignoraient qui est Stephen King, c'est l'auteur de Carrie ou de Shining et qui est lui-même considéré dans le monde comme l'un des maîtres de l'horreur.
Ouais, et ce qui est marrant avec lui, c'est que dans les interviews ou dans ses livres, il essaye souvent de se justifier. Comme il écrit beaucoup de choses terribles, et comme on lui a parfois reproché d'être une mauvaise fréquentation pour la jeunesse, d'influencer en mal, de donner de mauvaises idées, eh ben il veut à tout prix nous dire qu'il n'est pas fou et que, au contraire, fabriquer de l'horreur et même en lire, c'est une démarche parfaitement saine. Celui ou celle qui est imaginatif, dit-il, se rend compte que tout peut tourner à la catastrophe à tout moment. Il ou elle n'ira pas croire que les tueurs en série ne frappe que les autres et qu'il est plus probable de croiser l'un d'eux que de gagner 350 millions de dollars à la loterie.
Alors c'est un essai en fait, c'est une analyse.
Ouais, mais qui se lit comme un roman. Vous savez, Philippe, Stephen King, c'est un ami en fait, je vous l'ai pas dit.
Ah bon ?
Bon, je le connais pas personnellement. La seule fois où je l'ai croisé, c'était lors d'une conférence de presse en 2013 avec une centaine de confrères. Mais Stephen King parle à ses lecteurs comme à des amis, vraiment. Et dans ce livre, pour parler de l'horreur, il parle en fait de lui et du monde et de nous. Alors ça commence par le début, c'est-à-dire 1957. Stephen King a 10 ans et il découvre son premier film d'horreur au cinéma, Les soucoupes volantes attaquent. Le film a été arrêté en pleine séance puisque le gérant du cinéma voulait annoncer au gamin qui était là que les Russes avaient mis en orbite dans l'espace un satellite nommé Spoutnik. Et c'est pendant ce film et dans ce contexte particulier que pour la première fois, il a connu la véritable terreur. Il en est devenu accro à cette terreur et pendant tout le reste du livre, il essaye de comprendre pourquoi, comment un film ou un livre peuvent produire un tel effet sur nous et comment le monde qui nous entoure participe de l'horreur. Ma génération formait un terreau idéal pour les graines de l'horreur. Nous avions été élevés dans une étrange atmosphère foraine faite de paranoïa, de patriotisme et d'orgueil national. On nous avait dit que notre nation était la plus grande du monde et que le premier hors-la-loi rouge qui essaierait de sortir son flingue dans le grand saloon de la politique internationale découvrirait à ses dépens qui était le tireur le plus rapide de l'Ouest. Mais on nous disait aussi ce qu'il fallait entreposer dans nos abris anti-atomiques et combien de temps on devrait y rester enfermé une fois qu'on aurait gagné la guerre.
Là, vous lisiez du Stephen King.
Ouais.
Et il donne des exemples, j'imagine.
Tout le temps. Et c'est ça ce qui est bon. Vous reconnaîtrez des vieux films cultes, comme la série des Freddy, par exemple. Et c'est ce qui est terrible avec Freddy Krueger, c'est qu'on le connaît bien. C'est un meurtrier, nous dit King. Un psychopathe revenu d'entre les morts, mais 7 films plus tard, c'est devenu un vieux pote. Et quand vous ne connaissez pas le livre ou le film dont il parle, peu importe, il le décrit à la perfection. Et à travers ses œuvres horrifiques, il parle toujours de lui ou de nous ou de vous.
Anatomie de l'horreur, donc c'est chez Albin Michel. Ouais. Merci beaucoup Nicolas Caro. Je vais pas vous demander les justices si vous lisez. Je me suis laissé dire que vous aviez lancé cet été pour fêter vos 10 ans une web télé.
C'est vrai. Qui s'appelle Justice TV. Justice TV.
Justice.tv.
Et qu'est-ce qu'on y trouve ?
On y trouve pas mal de clips, quelques interviews, quelques reportages. Et donc, c'est un petit truc pour célébrer les 10 ans de concert.
Et vous n'avez pas peur que ça cannibalise vos disques ? Si les gens ont les chansons gratuitement sur votre web TV, qu'ils n'achètent plus les albums ?
Non, ça fait bien longtemps que ça ne marche plus comme ça.
Comment ça marche maintenant ?
Et j'en ai aucune idée, mais je sais que c'est je sais pas encore très bien, mais je sais que l'exposition gratuite est pas un frein,
ouais,
à la réussite commerciale. Et de toute façon, c'est pas des questions qu'on se pose, en fait. On est quand même plus, enfin, c'est la même chose que de sortir un disque en 3 vinyles. Mmh. On fait les choses quand même plus par plaisir égoïste que par espoir de vendre des copies, des unités physiques. Ouais. De notre musique.
Ouais. Mais pardon pour cette question bassement triviale, mais si vos concerts coûtent très très cher, et tant mieux pour les gens qui vont vous voir, et que vous gagnez pas d'argent avec ça, et que vous gagnez pas d'argent avec les disques, comment vous faites ?
Ah, bah, les temps sont durs, hein. Il y a plein de choses. Je voulais pas te dire que c'était un gouffre complet.
J'ai bien compris.
Mais c'est quand même pas loin d'être un gouffre complet, mais il y a plein de choses par bonheur. On a quand même beaucoup d'activités différentes qui sont liées à la musique, que ce soit les pubs. De tourner en DJ aussi, de vendre des disques, on est pas malheureux quand même.
Il y a des pubs qui passent à la télé dont j'adore le son. Quelle pub vous avez faite récemment ? Ça se trouve, c'est une de celles-ci que j'adore.
La dernière, je crois que c'était Nike.
Ouais.
C'était une pub Nike dans laquelle il y a 2 ou 3 morceaux à nous. Voilà, donc c'était ce genre de choses-là. Ça nous permet justement de faire des spectacles mégalomanes.
Ouais.
Et de s'en sortir quand même.
Donc, je m'adresse à tous les auditeurs d'Europe 1 qui n'ont rien à faire le 6 et le 13 novembre. Allez à Austin, au Texas, voir Justice. Et alors, Xavier, Gaspard, restez quand même avec nous, parce qu'on part avec Diane Chenouda à Marmottan. C'est pas du tout l'asile de fous, il va être question de peinture.
Vous écoutez votre grand journal du soir, on retrouve Philippe Bandel pour quelques minutes encore.
Suite et fin de cette belle demi-heure culturelle avec Xavier Deronet et Gaspard Auger, ce sont les deux membres, les deux têtes pensantes, les deux fondateurs du groupe Justice pour les Américains. Nicolas Caro est avec nous dans ce studio, enfin il se cache un peu parce qu'il a lu du Stephen King et maintenant il a un peu peur. Diane Chenouda, je n'ai pas peur, vous nous proposez ce soir une expo pas comme les autres, il y a des tableaux de Monet, de Renoir, de Matisse, ça on connaissait, sauf qu'on les a jamais vus, dites-vous, c'est ça ?
Mais oui, c'est ça Philippe, c'est exactement ça, et pour les voir ces toiles, eh bien, il faut courir au musée Marmottan Monet à Paris, vous savez c'est ce très beau musée dans le bois de Boulogne. Alors vous avez là une soixantaine de chefs-d'œuvre impressionnistes et fauves que vous n'avez jamais vus. À moins que vous ayez, je sais pas moi, un Monet ou un Vlaminck ou un Van Gogh chez vous, caché. Donc rien de tout ça alors. Eh ben écoutez, ces toiles, elles viennent de collections privées. Une trentaine de familles du monde entier, des collectionneurs, Europe, Italie, Suisse, Angleterre, Mexique, États-Unis et beaucoup de France, ont accepté de prêter leur trésor pour 5 mois, qui étaient jusque-là dans leur chambre ou dans leur salon. Ouais. Et alors, c'est le cas de François-Marc Durand qui cède son très beau Renoir, le portrait d'une jeune femme très délicat, dans les tons pastels, que personne n'a vu, puisqu'il était dans son salon, ce tableau. Écoutez.
Il n'a jamais été vu en public. Il est dans mon salon. Il a la plus belle place. Et puis alors, j'ai un voisin en face de chez moi qui est un monsieur très gentil, qui je laisse toujours mes fenêtres ouvertes. Il m'a dit, il y a une femme magnifique chez vous. Je pensais qu'il pensait à ma femme. En fait, non, il pensait à ce tableau, puisque c'est donc cette jeune femme qui est Mathilde Bernheim.
Alors, il m'a confié que ça lui faisait un peu bizarre quand même, hein, de se séparer de son tableau comme ça, car c'est une partie de lui-même, hein, ce tableau.
J'ai juste une question. Oui. Maintenant que tout le monde sait que ce François-Marc Durand a un Renoir chez lui, les cambrioleurs, salut, hein, vous lui rendez un sacré service.
Et il a accepté de témoigner au micro d'Europe 1, que vous voulez que je vous dise.
En donnant son vrai nom.
Très charmant monsieur, oui, oui.
Il habite quelle rue ?
Et d'ailleurs, son nom, il est à côté du tableau, au musée Marmottan, justement. Il a accepté de ne pas rester anonyme.
D'accord, mais quand même, c'est un déchirement.
Mais oui, c'est un déchirement pour beaucoup, au point que, figurez-vous, certains étaient un peu réticents à prêter comme ça leur Van Gogh ou leur Monet. Et alors, le musée, du coup, a fait faire des copies. Vous imaginez ? Des copies qu'ils peuvent accrocher chez eux le temps de l'exposition. Écoutez la directrice adjointe du musée Marmottan, Marianne Mathieu.
Alors, les collectionneurs acceptent de décrocher les tableaux. C'est une grande absence. C'est donner un peu une part de soi. C'est comme un membre de la famille qui part. Pour beaucoup, ils sont heureux de pouvoir faire partager cette beauté qui les nourrit et qui les réjouit tous les jours. Et puis pour certains, eh bien, l'absence étant difficile, nous avons fait faire des copies des œuvres le temps de l'exposition pour que voilà, l'absence ne soit pas trop douloureuse.
Voilà, ils ont fait faire deux copies. Alors en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est la fierté quand même qui domine chez notre collectionneur et la joie de partager son Renoir.
Ça me donne aussi une grande fierté parce que vous voyez, les tableaux de cette exposition sont tellement merveilleux quand je vois par rapport à ces caillebottes magnifiques, ces monnaies magnifiques. Et de me dire que mon Renoir a le droit d'être présent parmi ces œuvres-là, ça me paraît presque incroyable. C'est peut-être un peu d'oxygène pour cette Mathilde Bernheim de sortir de mon appartement et d'aller dans le grand monde du musée Marmottan.
Il est sympa, hein ?
Ah oui, oui.
Et alors, la virée au Marmottan, effectivement, on l'entend, hein, ça vaut vraiment le détour, Philippe. Ouais. Ça commence par une vue de Belle-Île, splendide, de Monet, qu'on n'a donc jamais vue, et un très beau Matisse plus loin, tout aussi inédit sur Belle-Île également.
Juste
un bouquet
question,
de chrysanthèmes.
Quand oui, vous dites qu'on ne les a jamais vus, on ne les a jamais vus dans des musées, mais est-ce qu'ils ont déjà été photographiés et on peut les retrouver, par exemple, dans des livres ou sur Internet ?
Là, en l'occurrence, on peut le retrouver dans le catalogue de l'exposition, mais honnêtement, ils ont peut-être été exposés il y a 50 ans, du vivant des peintres, mais franchement, à part un caillebotte qui effectivement, c'est le pont de l'Europe, c'est un chef-d'œuvre de caillebotte qui a été vu dans un musée il y a quelques années, c'est le seul qui est encore en main privée justement. Vous voyez, mais sinon les autres, on les a quasiment jamais vus vraiment.
Alors je vous ai interrompu, vous étiez sur le bouquet de chrysanthèmes de Monet.
Ouais, c'est une symphonie de fleurs incroyable qui n'a jamais été exposée vraiment. Des Degas aussi, un bord de Seine de Seurat. C'est merveilleux, on a l'impression d'y être. Quand on pense que ça, c'est dans un salon quelque part et qu'on peut le voir à Marmottan là, une danseuse espagnole, pétaradante de Picasso, également jamais vue.
Et
donc
en région,
il faut y aller.
Et il faut aller. Et en région, Diane, alors, que faut-il aller voir ?
Vous aimez la Provence ? Vous aimez le soleil, la Sicile ?
Non, moi j'aime la pluie quand on se fait bien chier.
Oui, alors dans ce cas, écoutez, en tout cas, vous aimez Nicolas de Staël, je suis
oui,
sûr.
J'aime beaucoup en vrai.
Et bien sûr, j'ai bien compris que c'était ironique, que donc vous aimez la lumière, eh bien il faut aller à Aix, à l'hôtel de Caumont. Vous aimez manger ?
Non, pas du tout. Les pilules.
C'est comme moi, je déteste
mon rêve,
ça.
C'est d'être cosmonaute.
Alors voilà, c'est ça. Vous avez encore quelques jours pour manger à l'œil. C'est le nom de l'expo, hein, manger à l'œil, au Mucem à Marseille. Tout savoir sur le repas à la française, donc nos bons repas gargantuesques. En images, photos, extraits d'émissions de télé. Et vous aimez l'amour ?
Pas du tout.
Bon, moi non plus. Alors, ne manquez pas l'expo qui arrive au Louvre-Lens le 26 septembre.
C'est quoi une expo sur l'amour ? Dites donc, vous nous faites saliver.
Je vous en parlerai si vous voulez, si vous êtes sage.
Parce que moi, j'étais déjà assez à bloc avec la raclette, mais alors là, s'il y a une expo sur l'amour.
Ouais, sous toutes ses formes, depuis Adam et Ève.
Merci beaucoup Diane Chénouda. Il va falloir prévoir de l'antenne pour Diane Chénouda.
Avec plaisir.
Tout à fait autre chose, c'est ce week-end le rendez-vous annuel des Journées du Patrimoine. Vanessa Zah, Stéphane Bern nous incite à sauver le patrimoine français en jouant au loto. C'est maintenant, c'est 15 euros le ticket. Et vous nous poussez carrément à devenir châtelain.
Exactement. Alors, moi j'ai aucun doute sur le fait qu'autour de cette table, tout le monde connaisse l'application Adopte. unmec.com, mais je suis persuadée.
Je vous confirme, je connais.
Vous connaissez bien ? Non, je m'en doutais. J'attendais que les garçons parlent, mais pas du tout, c'est Diane.
Ici,
voilà, c'est bon. En revanche, je suis persuadée que vous n'avez jamais entendu parler de adopteunchâteau.com. Alors, est-ce que ça vous tente là, maintenant, tout de suite, d'être propriétaire d'un château fort, un château médiéval du 15e siècle ? C'est le château de Les Beaupinets. On est en Vendée. On est à 50 km du fou, à peu près.
Ouais.
Alors, est-ce que vous avez 50 euros ? Qui a 50 euros là ?
Pas sur moi, mais on peut les trouver.
Diane, je crois que je les ai.
Et ben voilà, donnez-les-moi. Super. Et ben voilà, c'est signé.
Mais Diane Chénouda sort 50 euros de son soutien-gorge.
Absolument. Moi, je rêve d'être châtelaine. Donc,
et ben voilà.
C'est mon rêve depuis toujours. Il faut dire que je m'appelle Diane quand même.
C'est aussi simple que ça.
Oui, alors, non, toute blague mise à part, c'est aussi simple que ça. En fait, c'est ce que constatent justement les 1000 personnes qui ont commencé à acheter les Beaupinets depuis 10 jours via donc adopteunchâteau.com et sa plateforme de financement d'Artagnan. Pour donc acheter. Alors en fait, le principe est simple, vous devenez copropriétaire en achetant une action. Il suffit donc de mettre 50 euros, n'hésitez pas évidemment à mettre plus. Bref, vous achetez collectivement le château pour le sauver. Les Beaupinets étaient en vente depuis 7 ans et ne trouvaient pas d'acheteur. C'était trop lourd, mais malheureusement, il était trop beau pour le laisser tomber en ruine. Allez voir des photos sur Internet, il est magnifique, on a l'impression d'être en Écosse avec ce château.
Mais alors Vanessa, une fois qu'on est copropriétaire du château, comment fait-on pour en profiter ?
Alors, on va pas s'imaginer qu'on sera devant sa cheminée en robe de chambre avec un cigare à siroter un cognac.
Alors, je reprends les 50 euros. Voilà.
Bah, ou alors une fois dans l'année.
Vous allez voir, c'est beaucoup plus intéressant que ça. C'est pas le statut de copropriétaire comme on l'entend. En fait, vous avez tous les avantages sans les inconvénients. C'est-à-dire que vous n'allez pas porter tout seul les travaux, etc. Mais vous avez le droit quand même à des entrées gratuites à vie. On vous organise de nombreux événements privés exclusivement pour vous. Et le plus, et ça c'est pas obligatoire, hein, mais vous pouvez participer au chantier de restauration en priorité. Donc en fait, mettre la main à la pâte.
En gros, tu achètes, tu payes, et c'est toi qui bricoles.
Ouais, vous bricolez, mais vous allez pouvoir en profiter. Mais oui, mais comme tout châtelain, voilà. Mais en fait, donc ça nécessite que vous laissiez votre jean en fait et votre téléphone portable de côté, ouais. Et vous apprenez en fait avec les autres copropriétaires, mais aussi les visiteurs qu'ils souhaitent sous forme de stage ou de visite, et ben les techniques médiévales d'antan. Vous restaurez le château, donc la taille de pierre, la forge, le bois, la charpente. Vous êtes encadré par des professionnels en plus locaux, et là vous allez par la suite pouvoir recréer aussi un véritable village médiéval avec des cuisines, des écuries, une auberge, etc. Donc il est là en fait l'effet qui se coule. Vous sauvez le patrimoine tout en relançant aussi l'activité locale et en créant donc des emplois. Et c'est pas fini, il y a un double effet qui se coule. Il appartient à tout le monde ce château, mais surtout aux générations futures. En fait avec adopteunchâteau.com, on transmet aussi ce patrimoine. Il y a certains internautes qui ont acheté d'ailleurs des actions pour leurs petits-enfants.
Et alors on a jusqu'à quand pour devenir châtelain du château de Lébeaupinay ?
Eh ben vous avez jusqu'au 1er novembre, il faut 650 000 euros pour le racheter, il faut 1 million pour en faire un vrai pôle d'activité culturelle. Donc à vos souris, vous avez plus donc à cliquer sur ce site adopteunchâteau.com.
J'ai cru qu'il y avait des souris dans le château.
Il y en a sûrement. Et voilà, et si vous avez envie d'être parmi ces 25 000 copropriétaires, je vous donne ce nombre-là parce qu'en fait, c'est le nombre de copropriétaires qui ont racheté l'année dernière le château romantique de la Motte-Chandonnier. Le château avait été abandonné pendant 85 ans et il a été rouvert à la visite seulement 3 mois après leur achat. Donc tout ça pour vous prouver que ça marche bien. Et à mon avis, Adopte un château, c'est beaucoup plus fiable que adopteunmec.com.
Merci beaucoup Vanessa Zah, parole d'experte. Merci Xavier Deronet et Gaspard Roger du groupe Justice. Merci Diane Chenouda, Nicolas Caro. Merci vous tous et toutes d'avoir été avec nous dans cette émission. Nous, on se retrouve demain. Mais tout de suite, on va parler sport sur Europe 1.
Europe 1.
Et oui, dans un instant sur Europe 1, vous retrouvez Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Philippe. Le foot en effet, dès 20h avec 4 rencontres au programme ce soir. Il y aura notamment Monaco qui se déplace à Toulouse et puis on va revenir avec nos experts, nos grands débats sur la victoire du PSG avant le match de Ligue des Champions de mardi contre Liverpool et puis Lyon qui a fait match nul à Caen, 2 buts partout.
On vous écoute, merci beaucoup Lionel. Nous on se retrouve demain à 18h. Bonne soirée à tous sur Europe 1.